Ok, c'est reparti les amis, désolé. F5, let's go. Ah ouais, il faut que j'appuie là. Vous allez rire, tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Alors en fait, donc le mercredi, comme je l'expliquais juste avant de devoir couper ce stream, le mercredi, donc je stream pas de la maison, je stream d'un petit studio à côté du grand studio d'MVP que certains découvriront tout à l'heure pour la première fois. Du coup, je vais enlever ce que j'ai épinglé, le live revient dans une minute, ce qui est un mensonge évidemment sur Twitch, j'ai bien dû mettre 4-5 minutes. Et donc, l'intérêt en fait, c'est qu'il n'y ait pas de coupure du stream entre la revue de presse dans ce studio et MVP à midi, voilà, et que le flux parte du studio de là-haut. Sauf que j'ai oublié, j'ai lancé d'ici. Et on m'a dit, bah non, Sam, ça marche pas. Parce que l'idée, c'est de pas couper le stream. Et vous allez rire, parce que c'est pas fini. Vous allez rire, parce que du coup, j'attendais que ça lance là-haut. Et en fait, ils ont eu un petit problème de flux. Merci, je vais remercier les subs. Et donc, ça a pas marché. Et ils m'ont dit, du coup, tu peux lancer, toi. Ok. Et ça veut dire qu'on va avoir un cut, par contre. Ah, c'est nul. C'est-à-dire que tout à l'heure, à 11h45, là, quand je vais devoir monter au studio d'MVP, je vais vous parler d'MVP dans un instant pour ceux qui ne connaissent pas. En plus, on a une belle émission, on a un beau thème, une belle affiche, des beaux chroniqueurs, des beaux invités pour ce deuxième numéro. Du coup, je vais cut ici. Et alors, j'espère que vous serez là au rendez-vous pour dire à tout le monde, bougez pas, ça revient dans 5 minutes. Il est là, ce sera votre mission. Ok, est-ce que vous acceptez cette mission de fou? Ah, merci Antoine, le on sera là, il fait plaisir. Voilà, c'est marrant. Après, moi, c'est ce que j'aime, c'est Twitch aussi, quoi. Donc, à la télé, tu peux pas lancer une émission et dire au bout de minute, ah, en fait, non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je vais cut, j'arrive, je règle un truc. Ça, c'est alors. Je sais plus qui disait un stream sans incident technique, c'est pas vraiment un stream, je suis assez d'accord avec ce truc, quoi. Il faut que l'expérience reste cool pour les viewers, mais tu vois. Hier, j'ai discuté avec Julien Pain qui se lance sur Twitch, journaliste de France Info là, qui a commencé à streamer, spécialisé dans la lutte contre les fake news là. Et il me dit waouh, ah oui, la technique là, PC, son, image, tout ça là. Ah oui, c'est. Je dis bah oui, au début, c'est marrant. Voilà. Bon, merci beaucoup Rainbow pour le 26e mois, Rainbow 86. Merci Marie Marmotte pour le 18e mois, Julio Franchute pour le 36e mois, Julio Franchute qui était le premier du matin à Sub. Voilà. Donc aujourd'hui, on passe 6 heures en stream ensemble, puisqu'il y a les trois petites heures de la revue de presse, là. Un peu moins, j'exagère, en fait. Ça va du 2h, ouais, du 2h et quart. J'ai des beaux articles, en vrai. C'est bon, une actu pas folichonne, mais assez intéressante. Et puis après, le MVP, ok. Merci Yo-Yo Le Bosch à l'instant, là. Attends, ouais. Tiens, je vais vous montrer le visuel. Ah, mais attends, je peux le faire. Mon iPad, il est connecté, je peux vous montrer ça direct. Attends, putain, oh, les gars, il y a un monde où je peux vous montrer ça dans mon iPad. Attends, fais voir. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a Majmi Lambert qui va faire 5 abonnements à la commu. Salut Majmi Lambert, merci beaucoup. Merci pour les 5 abonnements offerts à la commu et merci Benji qui à l'instant pour le soutien. Voilà. Et donc MVP, c'est ça. Alors MVP, tout le monde, levez la main ceux qui ne savent pas ce que c'est MVP, l'émission que j'ai lancée la semaine dernière. Oh, les messages sont trop gentils. Même toi, Titi qui vient d'arriver, son premier message. Parfois, t'as des premiers messages, c'est ouais, ta gueule. Et là, c'est bonjour à tous, premier message ici, merci d'être là déjà. Tu vois, le gars, il dit bonjour. Enfin, le gars ou la fille d'ailleurs. Il dit bonjour et il dit merci. Waouh. Bravo pour ce The Event, les clips sont fous. Ouais, c'est vrai. J'ai vu Étoile sur TikTok qui réagissait à ma danse des canards avec Elidia et qui disait il était en mode je suis sûr que sa femme me déteste. Je suis sûr que Hélène déteste Rayou. Maintenant, il fait la danse des canards, quoi. Tu vas m'accompagner dans une matinée chargée. Hâte de voir Time Out. Je suis d'habitude un viewer de l'ombre. Je vous passe un petit coucou. Merci encore. Merci pour ton adorable message. Est-ce que tout... Levez la main ceux qui ne connaissent pas Time Out. Je bosse sur un projet avec de l'IA. Je vais partager aux collègues. Ouais, ça parle de l'IA ce matin. Levez la main. Je vous vois tous. Hein. Vous ne savez pas, mais en fait, je suis assez fort en informatique désormais, depuis que je suis sur Twitch. Et en fait, je peux activer toutes les caméras de vos téléphones, de vos iPads, de vos PC, de tout, de vos Mac, même de vos voisins, de votre famille, si vous êtes, votre appareil n'est pas équipé. Donc je vous vois en fait. Hein. Merci Commoner pour le deuxième mois. Je vous vois. Donc levez la main, vous pouvez lever la main. Hein. Ceux qui ne connaissent pas Time Out, Moi, en revanche, je vais pas pouvoir trop suivre à cette heure-là. Il faut que je mange et que je parte au travail. Bah, ça va, exutoire. Ça va, la vie. T'es en train de me dire au calme que tu vas pas regarder mon émission alors que c'est quoi tes excuses? Faut que tu manges? Faut que t'ailles travailler? Mais sérieux, quoi? Frambrois, je suis ingénieur IA en théorie à du MBP. Je savais pas, Frambrois, que t'étais dans ce secteur-là. Ça va, bon, je vois les mains levées, je vois les mains levées. Alors, Time Out, les amis, c'est ça. Voilà. Time Out, en fait, c'est donc une émission qu'on a lancée la semaine, il y a 15 jours, pour son premier numéro. Merci Dom Biscotte, merci Cadu Porti, merci Commoner, merci tous les trois. Après un an de réflexion... Ah, j'ai dit Time Out encore. Ah ouais, je, parce que Time Out, c'est l'autre émission que je lance à la rentrée. Enfin, c'est MVP. Je vais y arriver. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Time Out, c'est mon autre grand bébé de la rentrée aussi. On se reconcentre. C'est le grand jeu qui revient d'ailleurs dans pas longtemps. Là. MVP Samuel. Ok. MVP, c'est un an de réflexion. Ouais, c'est l'âge. C'est vrai. Un an de travail. Un an de waouh. Ok, l'idée, elle est bonne. Parler du monde du travail, de l'emploi, des secteurs d'activité, tout ça. Mais ok, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Est-ce qu'on, au niveau de l'info, que ce soit informatif, il faut que, faut qu'on passe un bon moment quand même. Il faut pas que ce soit anxiogène. Hein. Et puis, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et les fous de boulot. Comme ceux qui pensent que l'équilibre, il est ailleurs. Ça, c'est important. Et donc, on a pensé cette émission pour vous. Et c'est né il y a 15 jours avec une première émission consacrée au métier passion. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un métier passion? Est-ce qu'on doit être passionné par son travail? Quels sont les métiers passion? Est-ce que tout métier ne peut pas être une passion? Etc. Ce genre de débat. Et là, c'est le deuxième numéro autour de l'IA. L'IA, est-ce que c'est notre BFF? C'est quoi? Best Friend Forever, c'est ça? En termes de conséquences sur l'emploi. Ou notre meilleur ennemi, quoi. Et l'idée de MVP, en fait, quelqu'un de l'équipe l'a résumé ainsi, j'aime beaucoup, c'est une émission qui se propose d'explorer toutes les voies VOX, du monde de l'emploi, quoi, tous les métiers, les secteurs, d'explorer toutes les voies, émission après émission, pour que chacun trouve la sienne. Pour que les plus jeunes qui nous regardent, collégiens, lycéens, les étudiants en projection vers la vie active, puissent se dire « Ah, mais ça c'est pour moi ». Et que les gens qui travaillent déjà voient VOIS, pardon. Putain. Alors, je suis un peu malade depuis hier, je suis un peu rhumé. Et mon cerveau tourne au ralenti. Donc, du coup, c'était VOIES. Et l'émission s'appelle bien MVP. Alors, vous m'excusez. Depuis hier après-midi, je suis en mode enrhumé, virus, truc. Du coup, je me suis un peu doliprané. Et voilà. Donc, je vais dire pas mal de bêtises. Le problème, c'est que j'ai une émission de 3 heures carrées. C'est pas grave. Et du coup, d'explorer toutes les voies VOIES pour que chacun trouve la sienne. Voilà. Y compris ceux qui travaillent déjà, ceux qui sont en mode ah, « Moi, je ne me plais pas trop dans mon entreprise, pas trop dans mon secteur. » Voilà, quoi. Pas mal. Je précise d'ailleurs que tous les bugs de l'émission qui va venir, là, toutes les erreurs de ma part seront évidemment commises par une IA. Voilà. Est-ce qu'il y a des MVP de prévus qui ne tournent pas autour du web et de l'informatique? Oui, bien sûr. Chouchou, la semaine dernière, c'était... les métiers passion. À un moment, on a parlé du métier de grutier. C'est le deuxième, là, on parle de l'IA. On va faire, je ne sais pas combien on va faire, une vingtaine d'émissions au moins cette année, tu vois. Donc, bien sûr, on va explorer. Tiens, par exemple, gros spoil, la semaine prochaine, parce qu'il y a une émission la semaine prochaine, normalement c'est tous les 15 jours, mais on en a fait 3 en septembre, c'est travailler à l'étranger. Est-ce que c'est une bonne idée de travailler à l'étranger? Est-ce que c'est vraiment le bon plan d'aller bosser jeune ou moins jeune, d'aller bosser à l'étranger? Vas-y, t'es pas du tout dans l'informatique, là, tu vois. Donc ça, c'est le mercredi prochain. Les métiers de la santé, bonne idée, tu vois, tout ça, on va faire quoi. J'ai loupé le métier passion, moi je fais des décos ballons, trop bien. En vrai, tu l'as pas loupé parce que c'est sur YouTube, bien sûr. Tu tapes MVP sur YouTube, let's go, quoi. Voilà, donc ça c'est MVP, on est très fiers de cette émission. Et ça c'est l'affiche d'aujourd'hui avec que des goats. Vous avez Clément Viktorovitch. Il sera notre invité MVP. C'est tout à la fin de l'émission. C'est le grand entretien d'une demi-heure. Clément, sa vie, son œuvre. Hein, Clément, c'est le politologue qui est arrivé sur Twitch, qui est en train de tout casser. C'est incroyable. Il a une communauté de dingue. Et puis, il suit l'actualité politique. Il a un livre qui sort dans 2 jours. Il a son spectacle qui tourne au théâtre, là. Son seul en scène, pardon. je crois qu'il le dit en français. Et les contrats veilleux, on va en parler la semaine prochaine, par exemple, de là. Donc le Clément, pour le grand entretien, sera à la fin. On sera vers 13h30, 13h45, tu vois. En fait, chaque semaine, il y a trois invités. Donc, là, c'est l'invité MVP. Tu as l'invité pro, c'est quelqu'un qui justement a développé une entreprise et un logiciel, une appli qui sert de l'IA. À destination de qui? Notamment, à la base, c'était surtout à destination des gens qui font des thèses, des mémoires. C'est vachement intéressant. Puis maintenant, c'est un truc sur justement, je crois, la vérification de la formation. Donc, quelqu'un qui justement se sert de l'IA dans son projet professionnel. Et pour des gens qui utilisent l'IA pour leur boulot, c'est un peu intéressant. Ça, c'est notre invité, c'est une femme, une jeune femme. Donc, ce sera notre premier invité, on appelle ça l'invité pro. On a un invité mystère ou une invitée mystère. D'ailleurs, c'est une invitée mystère aujourd'hui. Parce que dans mes émissions, je fais très attention à ce que les femmes soient présentes. Et c'est un effort que je fais tout le temps. C'est un des trucs que j'ai demandé dans cette émission, c'est que ce soit aussi le cas pour MVP. Et donc, l'invité mystère. Alors, l'invité mystère, je vais vous dire tout de suite qui c'est. Non, pas du tout. Parce qu'il s'agit de trouver qui c'est. Et donc, les chroniqueurs devront trouver l'invité mystère qui sera avec nous en plateau, trouver son métier. Voilà. Et je donnerai un ou deux indices. Et le chat, vous jouerez aussi. Vous aurez le droit de poser des questions. Bien sûr. Voilà. Isaac, faut pas t'informer sur Twitter, mon chouchou. Voilà. Si tu veux vraiment savoir ce que je pense, il faut venir sur mes streams et pas aller chercher les 10 secondes sorties hors de contexte par les gens mal intentionnés et ou bas du front. Je compte sur toi. D'ailleurs, t'es sur le stream, Isaac. D'ailleurs, si tu connaissais mes streams, Isaac, je suis sûr que si je clique, ton historique doit pas être très ancien. Ça fait 4 ans que je stream quasiment tous les jours. Si pourtant, c'est bizarre du coup que tu dises ça. Si tu connaissais vraiment mes streams, tu poserais pas cette question. Et je t'embrasse, mon chouchou. Voilà. Mais informe-toi plutôt sur Twitch que sur Twitter, en fait, tu verras, ta vie n'en sera que plus lumineuse. Hein ? J'attends ta réponse, mon Isaac. Voilà. Et donc, on a le Clément Viktorovitch en invité, l'invité mystère dont je viens de parler, l'invité pro, et on a chaque semaine 3 chroniqueurs. Il y en a un qui revient. Enfin, chaque semaine, tous les 15 jours. Il y en a un qui va revenir à chaque émission, c'est Ludovic B en bas à droite. Ludovic, c'est le spécialiste, en fait. Des métiers. Il a une chaîne YouTube qui n'est consacrée qu'à ça, en fait. C'est-à-dire, il explore les métiers. Il dit qu'il est un éternel stagiaire de 3e, j'aime bien ça. Et il a une chaîne YouTube où il présente plein de métiers. Je crois qu'il a fait plus de 30 vidéos à ce jour. Hein. Et c'est vraiment, il est très curieux des secteurs d'activité, des métiers et tout. Donc Ludovic, il sera avec nous à chaque émission et il va nous présenter deux nouveaux métiers, je crois, aujourd'hui. Hein. Peut-être potentiellement pour vous donner des idées, quoi. Non, l'invité pro, c'est PRO, hein, c'est pas PRAUD, très bonne blague de le bon vieux quai. Je valide cette blague. Je remercie le raid à l'instant de Baird Balek. Vous étiez sur quoi d'ailleurs en termes de contenu? Donc c'est l'invité pro PRO, pas PRAUD. Là, on part sur autre chose. Hein. Donc Ludovic B, il nous parlera de métier. On a Pépin, que j'adore, qui est une illustratrice, une graphiste, une peintre, une streameuse. Qui fait la DA de ma chaîne, qui fait mes badges, mes émotes, mes visuels, notamment le visuel d'annonce du retour de Ça me plaît, mon émission du dimanche soir sur le jeu vidéo, qui revient pour une saison 2 à partir de dimanche. Voilà, j'ai déjà le visuel, je vais le poster aujourd'hui ou demain. Voilà. Et donc Pépin, en fait, elle vient pour une chronique aujourd'hui. Elle n'est pas une invitée, elle vient en tant que chroniqueuse d'MVP pour justement évoquer les conséquences et les éventuels dangers de l'IA sur son métier en tant qu'artiste, en tant qu'illustratrice. Ouais, hyper intéressant. Voilà, un peintre, mais pas sur Valo, c'est gentil, mais c'est faux. Toi aussi, tu as un côté peintre sur Valorant, Sam. Ok. Ok. Ok, ça commence, vous êtes... C'est fou, ça. Alors que je suis en train de monter en niveau de fou, là, ça sent... Il y a un petit parfum de silver, là. Ok, je suis faire 3, mais il y a un petit parfum de silver, là. Il y a un truc qui vient. Et puis... Ceux qui s'intéressent à l'IA connaissent normalement Anis, alias Defend Intelligence, qui est un ingénieur en IA. Je crois qu'il vit du côté de Marseille, que j'avais déjà reçu sur ma chaîne Twitch dans l'hebdo Etienne il y a quelques temps. Et c'est vraiment un passionné, un spécialiste de l'IA. La grosse chronique, la grosse presse, comme on appelle ça, ce sera lui. Est-ce que c'est pas un sommaire de fou? Est-ce que c'est pas, sur le papier, c'est une belle émission? Je dis bien sur le papier parce que comme je suis un peu enrhumé slash malade, je pense que je vais raconter plein de conneries. Et on va bien rire. Parce que voilà, je vais un peu me tromper, les trucs et tout. Voilà. Mais ce sera à midi. Est-ce que vous validez? J'annule mes rendez-vous pour être là. Yes! Monsieur Five. Ok. Mais comment t'as perdu ton emploi? Ben en fait, je regardais une émission sur l'emploi. Pour améliorer ma carrière. Et en fait, je ne suis pas allé au boulot. Et donc, j'ai perdu mon emploi. Ok. Merci MVP. Ouais. Le sujet, il a bien trouvé. Ok, c'est validé. C'est ma crainte de perdre mon job à cause de Twitch. Non, Étienne, hein ? Je suis conseiller France Travail, donc si je viens, c'est de la veille informationnelle, me dit Monsieur Five. J'adore. Tu faisais des missions avant, aussi longues avant Twitch? Ben non, Twitch, c'est formidable. C'est un outil qui te permet justement de prendre le temps, de vérifier les infos, de faire attention à ce que tu dis, de corriger quand tu dis une bêtise, de lire le chat, d'enrichir les infos que tu donnes parce que tu vois dans le chat, parce que vous êtes tous des spécialistes de tel ou tel sujet, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans les médias traditionnels. Voilà, c'est pour ça que quand je dis informez-vous sur Twitch plutôt que sur Twitter ou avec les rois du raccourci, là, c'est plus sympa, quoi. Nouveau setup incroyable. Alors, c'est juste, c'est deux fois par mois. Hein. Voilà, c'est pas mon décor quotidien, c'est mon décor de quand je fais MVP, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas mon. D'ailleurs, c'est un magnifique décor, mais c'est un fond vert. Hein. Théma, comme il est beau, quoi. Hein? Voilà, et ça, c'est mon studio deux à trois fois par mois, quoi. C'est beau, hein? Mais les chouettes personnes qui ont pensé ce décor l'ont pensé en clin d'œil à mon décor habituel, quoi. Ouais. Tu peux ouvrir les rideaux? Ben non. Ouais. Mais c'est bien foutu, hein? T'as vu, on allait chercher le petit néon, le petit Tintin, la petite Raze derrière. Tu vois, les mères, on a même mis des prises électriques, quoi. Tu vois? Oh, je ne sais pas si vous voyez, hop, elles sont là, les petites prises électriques, là. Voilà, et en fait, c'est un fond vert. Non, non, c'est une bonne idée sur le papier, mais c'est une fausse bonne idée. Il y a Minato qui dit, Sky Minato qui dit « Salut Sam, c'est mon premier message, mais je viens de remarquer que tu pourrais mettre un peu de musique en fond quand tu fais, par exemple, la matinée Étienne et que tu ne joues pas. » Alors, quand je fais la matinée Étienne, c'est que je lis les journaux. Dans un instant, je vais vous parler du Proche-Orient, de ce que sans doute les services secrets israéliens ont fait au Liban contre le Hezbollah, avec les trucs qui ont explosé de partout. T'imagines, donc je vais parler des morts, des trucs, machin, des OP, après je vais pas être poétique, de budget, de trucs graves, et là t'as la petite musique un peu chill, tin tin tin, pa pa pa, tin 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 tin, alors c'est super grave, il y a plein de morts et tout, wap wap wap, ça n'est pas possible. Donc en fait c'est une bonne idée sur le papier, mais ça va pas être possible, en fait. Est-ce que les rideaux du fond vert sont porteurs? Les rideaux du fond vert sont porteurs, ouais. Et là la petite danse des canards, tu vois. Tiens, bon les gars, c'est incroyable, il y a eu 2000 licenciements dans cette boîte, c'est vraiment, les gens sont vraiment... Et c'est la danseuse des canards qui, en sortant de la main, Ouais, mais c'est pas grave, on rigole, on fait tourner les serviettes. Donc ça va pas être possible. Fausse bonne idée, quoi. Est-ce que tu t'as capté? Je suis con, hein. Est-ce que vous êtes prêts pour un sommaire? C'est-à-dire que je vous donne l'essentiel de l'actualité en 5 minutes et après on lit tous les journaux. Hein? Vous êtes prêts? Ok. Sachant qu'à 11h30, 11h40, ouais, 11h30, la dernière fois, je m'étais maquillé en direct avant l'émission. Et là, avec l'autorisation de la maquilleuse, elle trouvait ça drôle. Parce que j'aime bien vous montrer les coulisses de tout ce qu'on fait. On aura la maquilleuse qui va descendre ici. Et qui, pendant que je vous dis au revoir, va me faire beau. Ouais. En live, parce qu'on est comme ça ici, on montre tout. Voilà. Et je vais même changer de t-shirt avant pour mettre un t-shirt spécial pour l'émission pour être trop beau. Il est juste là, et je vous montrerai tout. Voilà. Let's go! Rendez-vous vers 11h30. Ok? Ah, oh, une petite fourmi. Va-t'en, petite fourmi. Sur Internet, ce matin, en me levant, j'ai vu un mec qui avait créé une petite prison pour moustiques, une petite prison en carton pour moustiques, et quand il chopait un moustique, il le mettait en prison. Et, voilà, il faisait justice pour les moustiques. Et en fait, le moustique, j'espère que moustique femelle, parce que c'est elle qui pique, les mâles ne piquent pas. Qu'il avait fait le distinguo. Et en fait, il a fait une petite maison en carton. Jail for mosquito. Et le mec, il avait mis le moustique en prison. Ouais. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Alors, de quoi on parlait ce matin? Bah, je vous en parlais à l'instant. C'est un truc assez incroyable. C'est-à-dire dans un film d'espionnage, on mettrait ça, les gens diraient « Ouais, non, c'est trop gros, quoi. » C'est l'heure de libération ce matin. Liban, 15h30. L'opération Beeper est déclenchée. La une de Libé, vous avez sûrement entendu parler de ça. Des centaines de membres du Hezbollah ont été touchés mardi par l'explosion simultanée de leur Beeper, les vieux trucs là, qu'on utilisait avant. Vous allez comprendre pourquoi ils l'utilisaient. Dans une opération attribuée à Israël, elle n'a pas été revendiquée, mais bon, tous les regards se tournent vers Israël, faisant plusieurs morts et des milliers de blessés. L'histoire est inconcevable. Explique Libération. Voilà, c'est une histoire rocambolesque et qui a des conséquences, bien sûr, sur la situation au Proche-Orient. et sur la diplomatie mondiale. Vous verrez ça, l'histoire est incroyable. Donc Libé fait un gros dossier là-dessus ce matin et explique aussi voilà, le contexte, bien sûr. Le contexte, c'est la guerre à Gaza et les conséquences sur ce qui pourrait. Parce que ça, évidemment, ça remet un petit peu de tension dans la région. Le Parisien, alors évidemment. Petite une, un petit peu, tu vois, un petit peu pour attrape tout, on dit oh, pop, c'est le truc qui va. Je serais pas étonné que le Parisien vende beaucoup de journaux ce matin, parce qu'il y a ce genre de truc qui est genre de me dire oh là là, qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est un petit peu exagéré dans la mesure où en fait rien n'est décidé pour l'instant, mais le Parisien nous dit mais est-ce qu'on va échapper à des hausses d'impôts? Est-ce que Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, va décider de nouvelles hausses d'impôts? En fait, on n'en sait rien. Mais certains, comme le Parisien, disent qu'il y a des petits indices. Des petites discussions en off qui laisseraient penser que vu l'état des finances publiques et puis les échanges de Michel Barnier avec de potentiels ministres, eh bien, les impôts pourraient augmenter pour remplir un peu les caisses de l'État. Voilà, donc on lira ça dans Le Parisien. On a le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galleux, qui dit « Oui, il faut lever le tabou sur les hausses d'impôts. » Et ce qui est assez étonnant quand même, puisqu'on est plutôt sur un libéral là quand même, le gouverneur de la Banque de France. Et en fait, la petite musique, c'est, on verra si c'est suivi des faits, c'est ouais, il faut augmenter les impôts pour les plus riches. Et c'est une petite musique qui vient d'une partie de la droite. Waouh! Oula! Attendez. Ok, alors, attends. Le premier groupe politique arrivé en tête aux législatives, c'était le NFP qui voulait augmenter les impôts, surtout pour les plus riches. Et là, on a Michel Barnier, un homme de droite, qui arrive au gouvernement et il laisse entendre qu'il va peut-être augmenter les impôts pour les plus riches. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est bizarre. Donc on va... Ouais. Les macronistes, un peu en panique, ouais. Parce que le président Macron, il ne veut pas qu'on augmente les impôts, puisque c'est un des trucs qu'il a fait, lui, les baisser plutôt, notamment pour les entreprises et puis pour les particuliers. Et donc du coup, c'est un peu étrange, on va se pencher là-dessus. Voilà. Par ailleurs, bon là, on est sur des trucs un peu limites au niveau de la démocratie. Comme il y a eu dissolution, comme le gouvernement, enfin le Premier ministre a été nommé très très tard, comme il n'y a même pas de gouvernement, l'adoption du budget prend du retard et ça ne respecte pas normalement les règles. Et donc du coup, par exemple, le projet de loi va être transmis avec 8 jours de retard aux députés, 8 jours de retard par rapport au délai légal. Il y a des députés, pas forcément de gauche d'ailleurs, qui disent bah ouais, c'est pas sérieux, c'est pas carré ça. C'est pas carré. Donc on se penche là-dessus, vous avez peut-être entendu cette polémique. Et vous voyez que Le Monde consacre également sa une au budget que Barnier est en train de préparer. Voilà. Michel Barnier incité à taxer davantage l'héritage des ultra-riches. On verra ce que l'ONG Oxfam propose en la matière, notamment. Et en vrai, je trouve ça assez pertinent. Oxfam dit il y a un truc qui ne va pas dans notre société. Ce qu'il faut augmenter prioritairement, c'est les impôts sur les successions. Sur les grosses successions. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui héritent de millions d'euros, quoi, ben en fait, c'est pas, ça ne le fait pas. En termes de reproduction sociale. Et voilà. Et donc, s'il y a de l'argent à aller chercher, c'est là. Voilà, donc ça, c'est un débat assez intéressant. Vous savez quoi, on fera un petit sondage. OK. Ouais, les grosses successions. Ouais. Plus de 12 millions. Ah non, ça, c'était notamment Mélenchon, ça. Je crois que Mélenchon, il disait au-dessus, on prend tout, quoi. Voilà. Les 25 plus grosses fortunes. Oh, on fait chalotte. Ouais. Sauf que quand... Pardon, hein. Mais bon, si on va vers des hausses d'impôts pour sur le papier les plus riches, vous verrez que je pense que le truc sera plus large et qu'on ne sera pas que sur les 25 plus grosses fortunes. Vous verrez. Je le colle un peu ce truc. Voilà. Inflation le jour d'après, vous savez, à une époque on parlait sans arrêt de la hausse des prix de partout. Bon, bah, c'est en train de se calmer. C'est un constat de la croix. Mais parfois, il y a des bonnes nouvelles dans l'actu, il faut en parler. Donc effectivement, les prix sont en train de se calmer au niveau de l'alimentaire, au niveau de... des taux d'intérêt aussi. Voilà, donc on fait un petit point avec la croix là-dessus. Est-ce que le pouvoir d'achat des Français est en train de s'améliorer? Est-ce que la baisse des taux va concerner l'immobilier, etc.? Un petit point là-dessus. Oui, je suis très éco ce matin. Voilà. Galdieu, Samu qui stresse pour ses millions. Eh, envoie ton sub, toi, plutôt de... Vas-y, là. Hein? Faire du mauvais esprit, là. Sam qui échappe à 3 places près. Eh, vous avez fini d'imaginer? C'est fou, en fait. Pas facile, hein? Bon, hein? C'est pas mal de faux frais, moi. Hein? oui, info pas très souriante ce matin. Plusieurs jours que je surveille les articles sur cette nouvelle enquête du journaliste Victor Castanet, vous savez, qui avait dénoncé, qui se passait dans les EHPAD privés, notamment hors pair. Vous vous rappelez de ce scandale, hein, pour se faire de l'argent sur le dos des petits vieux. Et ben, le même journaliste signe un bouquin et il dit ben, c'est la même chose dans certaines crèches privées. Voilà. Voilà. Sur le dos, cette fois, des bambins et de leurs parents, ben, il y a des boîtes, des groupes privés, notamment une dans son livre, qui fait des dingueries au détriment des enfants et de leur famille. Et donc là, GG Victor Castanet, le livre s'appelle... comment il s'appelle ? Donc le premier livre sur les EHPAD, c'était les fossoyeurs, et là, c'est les ogres. Voilà. Ouais. Ouais. Donc ça, on se penchera là-dessus. Et puis, alors ça, c'est drôle, alors que justement, MVP, donc l'émission qui arrive à midi, là, explore le monde du travail, de l'emploi. Vous avez un bel article dans Le Monde que je vous recommande sur le fameux malentendu des générations dans le monde du travail. Hein. Vous savez, les clichés sur les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, en fait, ils veulent pas bosser. Ils veulent des vacances. Ils veulent des horaires à la cool. Ils veulent un beau cadre de travail. Ils veulent... qu'on les traite correctement. Et ils veulent être correctement payés. Mais c'est des punks. Mais c'est des punks. Hein. Donc il y a ce regard, une partie des plus vieux, quoi, là-dessus. Et le monde a un peu exploré ça, c'est vachement intéressant. Ils osent demander du respect, exactement, @. Mais c'est fou, ça. Ah, les jeunes. Alors le monde se penche sur ces clichés et dit qu'en partie, c'est des clichés, qu'en fait, les jeunes, ils veulent bien bosser, mais... peut-être pas qu'on les traite comme de la merde. Et ils ont raison. Et du coup, pour l'entreprise, c'est un peu un défi de manager ces nouveaux actifs. Vachement intéressant. Voilà, on veut bien bosser, on n'est pas des esclaves. Que veux-tu que je te dise ? T'as raison, chouchou, en vrai. Voilà. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Voilà. Hop. Let's go. Allez, vous êtes prêts ? Alors, attends. Moi, je fais ça. Pour revenir sur la bonne scène, je fais ça. Voilà. Bon, c'est pas mal comme sommaire. Bon, il n'y a pas de... comment dire ? Il n'y a pas de truc très souriant, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, je dirais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? C'est pas mal, hein ? Ouais. Bon, du coup, je vais marner un peu parce que... voilà. Parce qu'en fait, hop. Pourquoi j'enregistre de partout, ça ? C'est rigolo. Et donc, à midi, il y a ça. À midi, hop, il y a... Oh, je suis vraiment le rôle d'informatique. C'est pas non plus incroyable, Sam. Tu te fous de ma gueule, Ice Alpha, là ? Tu viens sur mon stream pour me dire que ma revue de presse, elle est pas incroyable ? Mais t'as gagné un historique, toi. 5 messages. Ouh. Alors, premier message à 10h03. Yo. Ah, t'es nouveau. Deuxième message, 10h09. 50 100. C'est quoi, ça ? Tu fais ton euro million, quoi ? 10h10. Tes millions sont bien planqués, Sam ? Tu te fous de ma gueule, toi. Voilà. 10h12, alors qu'ils n'ont pas d'expérience, quelle honte. Ok, espèce de rebelle, va. Ouais. Et à 10h12, tu me dis que ma revue de presse, elle pue. Tu te fous de ma gueule, toi. Alors, espèce de paltoquet, tiens. Non, je rigole. Mais non. Bon, vous êtes prêts ? On y go ? Heureux de vous retrouver. Et puis on a fait une revue de presse hier en plus. Les millions sont pas dans le décor en tout cas. Mais super le décor, qu'est-ce que tu racontes ? C'est fou ça. Est-ce qu'on fait la revue de presse ? Est-ce qu'on est parti ? Ouais, bon, on va commencer par cette histoire de fou. C'est ça là, incroyable ça. Regarde ça. C'est terrible les vieux qui ne parlent que d'expérience au travail. Leur seul argument pour donner des salaires dérisoires à des gens surdiplômés. On va invoquer ça tout à l'heure. Bon, ça, c'est une histoire complètement incroyable. J'ai vu ça ce matin. Liban, 15h30 hier. L'opération Beeper est déclenchée. Opération Beeper ? Waouh ! Des centaines de membres du Hezbollah ont été touchés mardi par l'explosion simultanée de leur Beeper dans une opération attribuée à Israël. Israël n'a pas revendiqué pour l'instant, faisant plusieurs morts et des milliers de blessés. Inconcevable. Vous avez un édito de Devalfon qui résume l'histoire. Après, on ira dans les détails un petit peu, tellement c'est fou. Je vous lis cet édito. L'opération militaire inouïe, non revendiquée, qu'une puissance étrangère, bon, tout le monde a priori sait que c'est Israël, a menée hier au Liban et en Syrie, coche toutes les cases d'un coup d'État des services du renseignement israélien. Tout y est, la prouesse technologique, le secret des préparatifs, l'audace opérationnelle, l'indifférence aux conséquences politiques. On y va, on le fait, on verra bien ce qui se passe. Hein? La rapidité de réalisation, la réalisation inconcevable de tous les objectifs visés. C'est vrai que dans le passé, les services secrets israéliens ont fait des trucs un peu fous. Certains disaient à une époque que c'était les meilleurs services secrets du monde en termes d'efficacité. Des centaines, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Des centaines de beepers ont explosé au même moment dans tout le Liban, mardi après-midi, dans une attaque coordonnée contre les membres du Hezbollah, la milice pro-iranienne qui multiplie depuis quelques semaines les bombardements sur le nord d'Israël. Un premier bilan bien provisoire, donc il pourrait s'alourdir, faisait état de 9 morts et plus de 2800 blessés, dont 200 dans un état grave. Et l'organisation chiite, le Hezbollah, a admis une faille de sécurité gigantesque. Ça existe encore les beepers ? Tu vas voir, Pierre, je t'explique. Attends l'histoire, attends, tu vas comprendre. Ce qui frappe l'imagination de cette opération est la complexité du problème posé, la simplicité de la solution trouvée. Le problème pour l'armée israélienne était de pouvoir mettre hors d'état de nuire des centaines de combattants anonymes d'une milice quasi-militaire, alors que Washington interdit à son allié de bombarder le Liban, hein, état dont le Hezbollah maintient certaines zones sous sa tutelle. Comment les reconnaître, ces membres du Hezbollah ? Comment les localiser ? Comment les éliminer ? Le problème semblait insurmontable, le truc est impossible. La solution proposée, faire exploser simultanément les appareils de communication personnels, les fameux beepers, que l'organisation a fourni à ses membres, réduit d'un seul coup considérablement le défi. Il ne s'agit plus de frapper des centaines de combattants camouflés, mais de cibler un seul fournisseur, le fournisseur des beepers. Se méfiant des smartphones que les services de renseignement israéliens pourraient trop rapidement mettre sur écoute, le Hezbollah avait en effet commandé des milliers de beepers. Ces petits appareils désuets, c'est des vieux trucs, hein, c'était pour recevoir des messages, c'était il y a très longtemps. Des messages par ondes radio, aisément identifiables. Qui d'autre pourrait passer à l'Iran une commande pareille ? C'est donc le Hezbollah lui-même qui a donné à ses troupes les mini-bombes qui allaient exploser dans leurs poches ou dans leurs mains ou sur leur table de chevet. L'attaque est signée électroniquement, le Hezbollah ne s'y est pas trompé, menaçant mardi soir Israël de représailles rapides. Vous verrez, il y a deux pistes. Est-ce qu'il y avait un petit explosif dans chaque beeper ? Est-ce qu'ils ont été en capacité d'activer un truc pour faire chauffer tellement la batterie qu'elle a explosé ? C'est deux pistes. On n'est pas sûr à 100%, mais c'est l'une de ces deux pistes. Voilà. En tout cas, ils ont fait tout péter. Voilà. Allons un peu plus loin dans les infos. L'opération porte un sévère coup au parti chiite pro-iranien. Bon, ça, c'est le constat, bien sûr. Le beeper sonne. Donc, un truc qui s'est passé, par exemple. Le beeper sonne à la caisse d'un magasin. Raconte Libération, l'homme se penche vers l'appareil attaché à sa ceinture. Une demi-seconde plus tard, l'engin explose, sa tête est rejetée en arrière, il s'effondre, sa casquette s'envole, soufflée par l'explosion, retombe sur le comptoir. Il est environ 15h30 au Liban. Cette scène, captée sur une caméra de vidéosurveillance, se répète des dizaines et des dizaines de fois, au même moment, hein, quasi simultanément, à travers le pays. Des hommes en train de faire leurs courses, des hommes en train de conduire, des hommes à table, assis, debout, couchés, tués ou blessés dans l'explosion soudaine de leur beeper au milieu de l'après-midi. Le mouvement armé libanais vient de vivre l'une des pires journées de ses 42 ans d'existence. Ses militants, les hommes au beeper, ont été visés par une attaque inédite dans l'histoire du renseignement. C'est jamais arrivé, ce truc. À la fois ciblé, le périmètre de chacune des explosions était relativement réduit et de très grande ampleur. Plusieurs centaines de combattants du Hezbollah, du Parti de Dieu, ont été blessés. Le ministre de la Santé libanais a annoncé un bilan de 9 morts et 200 blessés graves. Il y a des femmes et des enfants qui ont été touchés aussi. Ça, je vais le dire. Voilà, c'est ici, page 2. Le multi-attentat a fait des dizaines de victimes collatérales, tu m'étonnes, situées à proximité des porteurs de beepers, transformées en bombes humaines, dont des enfants. Voilà. Je vais vous lire dans un instant. En début de soirée, le Hezbollah a accusé son ennemi juré Israël d'être derrière l'attaque, annoncé que l'agression terroriste sioniste allait recevoir son juste châtiment. L'État hébreu n'a pas revendiqué ni commenté l'opération, mais son implication ne fait aucun doute. En début de soirée, le secrétaire général du Hezbollah... Oh, ça, je l'ai dit, ça, pardon. Comment ça se fait qu'ils avaient ces beepers et pas des téléphones ? Ça, je voulais déjà un petit peu expliquer. Salut, Quadro Fazon, tu n'es pas en retard. Merci, Lawards, pour le Prime. Merci encore, Beard Balek, pour le raid de tout à l'heure. Le secrétaire général du Hezbollah avait en fait, en février, mis en garde ses sympathisants contre leur téléphone portable. Il disait, bah ouais, c'est des appareils d'espionnage, ils entendent tout ce que vous faites, dites, envoyez, prenez en photo votre localisation, votre maison, faites gaffe à vos téléphones. précisément la raison pour laquelle le Parti de Dieu avait rendu obligatoire l'utilisation des beepers hein, pour les communications internes du groupe. Cet appareil de radio-messagerie, c'est un truc de vieux, hein. Évidemment, j'en ai un toujours. Des UE qui a connu son heure de gloire dans les années 80 et 90, comme moi d'ailleurs, moi aussi j'étais à mon prime. J'avais beaucoup de cheveux, je faisais 1m90, c'était juste incroyable. À l'avantage d'être intraçable et quasiment impénétrable pour les services d'écoute ultra performants d'Israël. Mais l'État hébreu a piégé les beepers destinés aux membres du mouvement. Voilà. Alors, a priori, non pas en piratant les appareils depuis l'extérieur, la piste de la batterie qu'on fait chauffer à mort et qui explose, mais plutôt en trafiquant en amont les appareils acquis et distribués par le parti anti-militaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont à un moment, dans le process de fabrication slash de transport, ils ont interpellé la cargaison de beepers, et a priori, ils ont mis des bombes dedans. Voilà. Donc ça peut se passer au niveau du fournisseur, de l'intermédiaire qui a servi de vendeur, du transporteur, quoi. La paranoïa du Hezbollah s'est donc retournée contre lui, en créant une faille béante dans son dispositif de sécurité. Ce mardi, les mini-bombes ont vraisemblablement été activées à distance par une fréquence spécifique ou un signal codé. Voilà. Incroyable. Évidemment, ça a des conséquences sur ce qui se passe dans la région, on va le lire, mais d'abord je vous lis. Comment ils savent que c'est l'État hébreu, dit Almor? Bah, très bonne question, parce que c'est pas revendiqué par Israël. Ça porte la signature de services secrets en capacité de faire une opération pareille, donc il y a très peu de services secrets dans le monde qui sont capables de faire un truc aussi énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a très longtemps, vous n'étiez pas né, la France, les services secrets français avaient commis un attentat contre un bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior, et puis ils s'étaient fait prendre les faux époux Turan, je crois qu'on disait à l'époque. Voilà. Donc un bateau, quoi, et on avait foiré le truc. Et là, c'est... Donc, voilà. Et donc, en fait, voilà, c'est signé de services secrets capables de faire ça, il y en a très très peu. Qui a intérêt de taper le Hezbollah? Il n'y a pas 1000 pays non plus. Et le fait que l'État hébreu ne nie pas, là, ils disent même pas c'est pas eux. Bon, voilà, en fait, c'est quasiment sûr à 100%. Mais c'est pas revendiqué. Ouais. Ouais. D'autres questions, bande de beaux gosses? Revendiquer, ça veut dire quoi, Fayana? Ça veut dire, c'est nous. Voilà. Un groupe terroriste qui fait un attentat, par exemple, quand il revendique, c'est-à-dire qu'il poste un message, c'est nous, c'est nous. Parfois, ils revendiquent des trucs qu'ils n'ont pas fait, d'ailleurs. Ouais. Le café, Wolfking, le café. En plus, je suis malade, j'ai un petit virus, donc c'est vraiment le café. Alors, évidemment... Vous imaginez bien que ça peut avoir des conséquences qui viennent de se passer. Merci beaucoup, Inosia, pour le soutien. Merci, Isaac. Mais, le Isaac de tout à l'heure, avec qui j'ai échangé, mais t'es trop gentil, mais... Merci, Isaac. Merci, Sisbu. Merci, La Ward. Merci encore, Isaac. C'est digne d'un scénario de Mission Impossible, ce truc, quand même, c'est fou. Alors, ça a des conséquences. C'est un tournant majeur, mais écrit Libération, du conflit entre Israël et le Hezbollah. L'attaque qui humilie la milice chiite et l'Iran accroît encore les tensions déjà élevées à la frontière israélo-libanaise. Quelqu'un qui vient me demander qu'est-ce que c'est le Hezbollah, on va aller voir dans un instant. Spectaculaire feu d'artifice marque-t-il le début de l'offensive israélienne majeure attendue au sud Liban? Est-ce que Tsahal, l'armée israélienne, va lancer une offensive au sud Liban pour empêcher en fait les bombardements sur le nord d'Israël, hein? C'est la question qui se pose maintenant. Alors qu'il y a une escalade à la frontière israélo-libanaise et un risque d'embrasement régional plus élevé que jamais. En ajoutant lundi à ses objectifs de guerre le retour en toute sécurité des habitants du nord d'Israël chez eux, le cabinet israélien a signifié clairement sa détermination à lancer une offensive d'envergure au Liban pour éloigner le danger des attaques du Hezbollah à sa frontière. L'Iran peut-il rester patient? L'Iran soutient le Hezbollah, hein. Souvent on dit le Hezbollah pro-iranien. Face à ce nouvel affront israélien, alors qu'il n'a toujours pas riposté à l'assassinat à Téhéran du chef du Hamas déjà, c'était le 31 juillet, Ismaïl Haniyeh, sa retenue est présentée comme une volonté de donner une chance à l'aboutissement des négociations actuellement sur un cessez-le-feu à Gaza, mais peut-être qu'on s'est éloigné de ses efforts de trouver un cessez-le-feu, puisque les négociations de trêve sont au point fort, le Hezbollah et l'Iran viennent d'être humilié. Netanyahou veut lancer une nouvelle guerre d'envergure et si son objectif est de détruire, s'inquiète Libération, les capacités militaires du Hezbollah bien plus substantielles, bien plus fortes que celles du Hamas, comme s'il y emploie depuis un an, la route est longue et terrifiante, écrit Libération. Voilà, les mecs qui s'inquiètent d'une flambée, d'un regain de violence dans la région, quoi. Voilà. Quelqu'un me disait, très bonne question, mais c'est quoi le Hezbollah? Parce qu'on en parle, on en parle, on en parle. Mais... Bon, je vous fais le Hezbollah pour les nuls, hein, c'est-à-dire même pour moi. Hein, tiens, un petit rappel. Normalement, vous devriez avoir la scène. Parce que je ne suis pas sur mon setup habituel. Un petit wiki rapide. En général, c'est bien fait. Alors, l'organisation qu'on appelle le Parti de Dieu aussi, c'est un groupe paramilitaire islamiste, ok, chiite, libanais. Voilà. L'organisation est parfois qualifiée de djihadiste chiite. Le Hezbollah, qui est classé organisation terroriste par de nombreux États, le Liban n'est pas d'accord et conteste cette qualification. Voilà. Fondé en 82 à la suite de l'invasion du Liban du Sud par Israël, il avait pour but à l'origine la résistance contre l'occupation israélienne. Même pour moi, c'est intéressant parce que moi, j'avais un peu oublié tout ça. Donc, résistance contre l'occupation israélienne au Liban. Et lors de cette période, il multiplie les prises d'otages, les attentats, notamment contre les États-Unis et la France aussi, dans le but de faire pression sur ces deux pays pour qu'elles quittent le Liban. Après la sortie des forces américaines et françaises du Liban, il se concentre sur Israël, qui avait envahi le Liban quelques années plus tôt. Donc ça, c'est vraiment les débuts, c'est intéressant. Voilà. Donc le Hezbollah, vous voyez, qui est installé au Liban, mais on le voit qui est très, très lié avec l'Iran, hein, voilà, qui a comme idéologie les thèses religieuses et politiques de l'ayatollah Khomeini, qui était un Iranien, hein, qu'il vénère. Armé et financé par les gardiens de la révolution islamique, donc ça c'est iranien aussi, le Hezbollah est souvent considéré comme au service de l'Iran. Voilà. Le Hezbollah a pour principe central le djihad, hein, la guerre sainte contre Israël. Voilà, donc il y a de nombreux épisodes d'affrontements entre le Hezbollah et donc qui est installé au Liban, vous le comprenez maintenant, et donc à la frontière avec Israël. Voilà, n'hésitez pas à vous... Vous voyez, on a des outils aujourd'hui maintenant incroyables pour justement éclairer les sujets qu'on ne connaît pas très très bien. Voilà, et là vous avez combien d'hommes à peu près, les moyens, les pays qui soutiennent, les pays qui considèrent le Hezbollah comme terroriste, etc. On va pas faire tout ce matin, mais c'est plutôt bien fait. Je vous lis un petit peu, et puis on enchaîne avec les impôts en France. Il y a Tiklem qui nous conseille le documentaire Hezbollah, l'enquête interdite. Merci Tiklem. Il y a Miladion qui dit mais chiite, c'est israélien. Et Quadro, façon qui dit non, c'est une partie de la religion musulmane, à opposer aux sunnites, exactement. Le problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est que pour comprendre ces sujets-là, effectivement, il faut s'intéresser à plein de choses, et notamment l'histoire des religions, le chiisme, le sunnisme, les chiites, les chiites, les sunnites, et l'histoire de l'islam. Hein. Sinon, tu ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Voilà, comme le dit Défécateur officiel qui nous rejoint ce matin, salut Défécateur. Concernant l'hypothèse d'une explosion des batteries au lithium suite à une surchauffe, on lit des experts de cybersécurité comme Baptiste Robert qui disent plutôt privilégier l'hypothèse que les boîtiers ont été piégés dès leur conception avant d'être livrés. C'est aussi ce qu'on trouve ce matin dans la presse. Il y a Tidus Pam qui dit désolé sur un autre sujet, il y a eu du mouvement pour les 1 million de followers. Est-ce que Twitch a fait quelque chose? Alors, effectivement, il y a quelques jours, je suis très heureux, hein, on est autour de 960 000 followers sur cette chaîne, ce qui n'a aucun sens, en 4 ans. Et on va fêter ça dans pas longtemps, dans quelques jours, quelques semaines. Moi, je m'étais dit fin décembre, début janvier. Puis il y a eu un stream très bizarre, le time out, et à un moment, on a pris 100 000 followers en un stream, ce qui, évidemment, est impossible. Et donc, du coup, alerté par les modérateurs, merci les modos, j'ai pris contact avec Twitch. Je suis allé voir un petit peu les courbes et je dis, il y a un truc trop bizarre là. J'ai pris 100 000 followers sur un live, là récent, et j'ai passé le million quoi, en une soirée. Et je pense que c'est des bots en fait. Je pense que j'ai eu une attaque de bots. Et effectivement, la courbe est super bizarre. Donc, je me suis dénoncé à Twitch. Et j'ai dit, les gars, enquêtez là-dessus. Enquêtez là-dessus. Bah, regardez, je pense que c'est vraiment des bots et vous me les enlevez, quoi. Parce que je veux pas passer le million de followers avec des bots. Ça m'intéresse pas. Je veux avoir un vrai million de followers. Et en plus, s'ils activent leurs notifications, c'est encore mieux. Et donc, du coup, bah, je l'ai signalé à Twitch. Ils m'ont dit, ah, bon, on a les outils pour faire ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et du coup, ben, j'attends depuis, ça fait une semaine que j'ai demandé, je la relance tous les jours parce que j'aimerais savoir. Voilà. Et j'espère que je ne vais pas descendre à 500 followers, comme quelqu'un le dit dans le chat. Bah, en fait, avant l'attaque de bot, on était à 900, en gros à 945 000 followers. Donc je ne vais pas retomber à 500 followers. Mais je ne veux pas passer le million avec des bots, quoi. Voilà. C'est peut-être les gens qui ont vu le The Event qui t'ont connu comme ça. Ouais, mais non, franchement, les courbes sont super bizarres. Ça se trouve c'est des vrais. Bah, c'est des vrais, on va me les laisser. Mais je crois pas, c'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui t'es à 1, ah t'étais à 1,1 hier et aujourd'hui t'es à 1. Ah mais j'ai perdu, ouais. J'ai perdu 20 000. Là je suis à 1,44 million. Hier j'étais à 1,64 million. Enfin 1,64 million. Ouais, j'ai un peu perdu. Non mais le 1,1 c'est arrondi en fait. Donc j'ai perdu 20 000 déjà. Et je pense qu'ils vont m'enlever des petits paquets comme ça. Voilà, en gros. Tu ne peux pas atteindre le million avec des bottes, mais avec des baskets, c'est... Ouais. J'ai enlevé 20K. Mais moi, je pense qu'il faut m'enlever 100K, je pense. Je crois. Je pense qu'il faut m'enlever 100K. On verra. Bon, enfin, l'idée, c'est de dépasser les millions, le million fin décembre, quoi. Et là, on pourra se féliciter. Et là, on fera une teuf. Qu'est-ce qu'on fera comme teuf? Qu'est-ce que vous voulez comme teuf pour le 1 million? On fait quoi? À part un petit coup de pole dance, un petit tour de France, une pool party, une party mousse. On va tous en boîte. Vous êtes combien là? On pourrait faire une petite teuf en vrai, ouais. On loue le centre Pompidou, la teuf, ok. J'invite 1 million d'abonnés dans mon appart, Ava au platine, let's go, soirée techno, ok. Tu invites les modos dans une villa avec toi, mais ça c'est prévu déjà, ça. On va voir qu'on se fasse des trucs quand même depuis le temps. Un stream de 24 heures, une grosse caisse dans ta gueule, vas-y, t'as fini en garde à vue. Une petite garde à Valenciennes. Un concours de ventre église sur les Champs-Élysées. Ok. Un stream de 24 heures avec plein d'invités. Ah, peut-être qu'il y en... En fait, je dis ça pour rire, mais je pense qu'il faut que je... Il faudra que je fasse quelque chose, ouais. Ça se fait, ouais. T-shirt mouillé, je suis pas sûr, Walt Lucky, je suis pas sûr. Je suis pas à mon prime, là. Pas à mon prime, là. Ça bourlétise un petit peu de partout, là. Un S-Event comme Z-Event, mais tu gardes l'argent pour toi. Ok, Nouma, vous avez de super idées. Tous rue de la soif à Rennes. Merci Melissa Quinn pour les beats, tu régales. Merci Sam en slip vert de Borat qui court un demi-marathon. Ok. Merci Funky Mouli pour le soutien. Merci Mangoloco. Merci. Merci Popo Vigno pour le message et pour le sub. C'est juste la peau qui s'affine, t'as pas de bourrelet? Si, on dirait une petite motte de beurre. Pardon, je fais péter le Red Bull là parce que j'ai un petit virus depuis hier, je suis un peu crevé. Je donne tout, mais je suis au deuxième sous-sol là. Allez, bon les gars, est-ce qu'on va échapper, se demande le Parisien, à des hausses d'impôts? Alors, est-ce que, parce que les caisses sont vides, est-ce que le gouvernement de Michel Barnier, qui n'existe toujours pas d'ailleurs, il est tout seul pour l'instant, il n'a pas de ministre, est-ce que ça va augmenter les impôts? Est-ce que ça va augmenter les impôts pour tout le monde? Est-ce que ça va augmenter que pour les plus riches? C'est parti, c'est le débat du moment. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Hein. C'est des suppositions, des interrogations. Bien sûr que non, il est de droite. Réponse Cyril, bah, c'est ce qu'on va voir. Le Premier ministre Michel Barnier envisage d'augmenter les impôts pour combler les caisses de l'État et de redresser les comptes publics. Un tabou est levé. Ah, bien. Que lis-je dans le Parisien? Que Michel Barnier ne s'interdit rien. Un tabou? Point d'interrogation. Visiblement pas pour Michel Barnier, le Premier ministre qui, dès le surlendemain de sa prise de fonction, a remis sur la table la question de la justice fiscale. C'est pas moi qui le dis. C'est avec point d'exclamation studio. Bravo, exutoire, vous avez les infos sur le studio. Pour tenter de dégager de nouvelles recettes Et il avance dans ses réflexions, nous dit le Parisien. Alors, il veut plus de justice fiscale.
Ok.
Donc, ce serait des impôts sur, pour les plus riches, alors.
Ok.
Bon, on verra. Comme le Parisien l'a révélé hier sur son site internet, le locataire de Matignon envisagerait d'augmenter prochainement les impôts pour combler les caisses de l'État. Il s'en est plusieurs fois épanché ces derniers jours auprès de certains proches, comme de personnalités consultées dans le cadre de la formation du gouvernement. Et les mecs sont sortis du rendez-vous en mode « Ah, oh, putain, il y a le dernier qui veut monter les impôts. » Bon. C'est la seule solution viable pour tenir nos engagements, s'est-il confié à un visiteur, par exemple. Même chose ce week-end auprès de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur démissionnaire, et qui aurait confirmé que ça parle de baisser les impôts. Ça parle de... De fait, Michel Barnier a plusieurs pistes sur la table, notamment en réévaluant le taux de l'impôt sur les sociétés, l'IS, hein, qui avait baissé ces dernières années. Le président Macron a baissé l'IS pour que les entreprises soient moins taxées. Autour de lui, certains élus LR, dont il est très proche, plaident aussi pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ISF, jugeant que cette mesure, même symbolique, est souvent réclamée par les Français rencontrés sur le terrain. Je relis la phrase. Autour de lui, certains élus LR, de droite donc, plaide pour le rétablissement de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. Mais dans quel monde vivons-nous, Mélia ? Mais il n'y a plus de règles, mais il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... Il y a des élus de droite qui disent à Michel Barnier, il faut que tu remettes l'ISF sur les plus riches. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Non, c'est intéressant. Certains élus de droite, hein, pas tous. Chez nous, c'est aussi une ligne rouge martèle. Hein. Ah oui, ça c'est après. Du côté de l'ensemble, ils ne sont pas du tout d'accord. Alors pourquoi le retour de l'ISF parce que ça enverrait notamment un signal à la gauche qui depuis des années exige son rétablissement. Ça ferait peut-être rentrer des ministres de gauche dans ce gouvernement puisque Macron veut qu'il y ait des ministres de gauche. Donc il n'y a qu'à faire des mesures de gauche. Les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu pourraient également être concernées. Donc ceux dans le chat là, qui payent, qui sont dans les tranches un peu supérieures, voilà, il y aurait peut-être un peu plus d'impôts pour les tranches supérieures. Et une taxe sur les super-profits également envisagée. Donc ça ciblerait les riches. Conditionnel. Retour de l'ISF, plus d'impôts hier sur les plus riches, peut-être même une taxe sur les super-profits. Alors là, ça a changé la droite. Hein. Ça a changé la droite. Comment ça, il y a que des chômeurs et des étudiants dans le chat ? Non, Cyril. Non, Cyril. Non, Cyril ! Politiquement, ça n'est pas sans risque pour le nouveau locataire de Matignon. Augmenter les impôts constitue une ligne rouge pour les Républicains. Donc, il y a des élus de droite qui veulent ça, mais globalement, la ligne de LR et de Laurent Wauquiez, c'est pas d'augmenter les impôts. Du côté de Renaissance, les macronistes, enfin, ensemble pour la République, c'est pareil, c'est une ligne rouge. Hein. Macron, il a plutôt baissé les impôts, donc on touche pas, quoi. Si le sujet revient sur le débat, c'est aussi à cause de la situation catastrophique des comptes publics. Si le Premier ministre touche aux impôts, ce sera perçu comme une manière de remettre en cause la politique fiscale jusqu'à leur mise en place par le Président de la République. Ça risque de sérieusement se tendre entre les deux. C'est fou, ça. Bon. Ça, c'est des bruits de couloir, c'est des rumeurs, c'est « ouais, machin m'a dit que... » Vous savez ce que j'en pense, on verra. Mais à un moment, t'as quand même un gars qui est le gouverneur de la Banque de France, qui n'est pas le plus grand des révolutionnaires, qui n'est pas trop en mode barricade, tout ça, qui s'appelle François Villeroy de Gallo, qui dit « bah ouais, il faudra peut-être lever le tabou sur les hausses d'impôts. » Et lui aussi, il dit qu'il faut taxer les riches. Alors là, je comprends plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce Salam Alek ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Non, pas du tout. C'est les filles partout ou quoi ? Non, mais en vrai, c'est extrêmement intéressant. À l'occasion de la présentation des prévisions économiques pour le pays, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, livre sa position. À ses yeux, il faut trouver 20 milliards d'euros par an sur 5 ans. C'est beaucoup, hein ? Dans un budget, c'est beaucoup. La réduction des dépenses doit aller de pair avec une hausse de la fiscalité des plus aisés. C'est le gouverneur de la Banque de France qu'il faut augmenter la fiscalité sur les plus aisés et sur les grandes entreprises, tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Le Parisien dit vous publiez vos prévisions économiques pour 2024-2026, est-ce qu'elles sont bonnes ? Il y a M. Villeroy de Gallo qui dit il y a une bonne nouvelle confirmée, c'est le recul de l'inflation, on va en parler ce matin. À la fin août, la hausse des prix est revenue au-dessus de 2% dans l'indice national, c'est la ligne de la croix, ce matin on va en parler. La conséquence favorable, c'est que même si ce n'est pas encore perçu, le pouvoir d'achat des Français s'améliore progressivement, tout doucement, mais un peu. Désormais, les prix augmentent moins vite que les salaires. Cela devrait nourrir la consommation, donc la croissance économique, mais on reste prudent. On est sur des taux de croissance autour de 1%, c'est quand même pas foufou. Une bonne nouvelle au niveau du chômage aussi, vous prédisez qu'il y en aura moins que prévu. Et il dit, si on regarde sur le temps long, les réformes qui ont été faites depuis 10 ans paient. La France est le grand pays européen qui a créé le plus d'emplois. Le niveau de la dette vous inquiète-t-il ? Bon, là, ça va être plutôt oui. Le déficit et la dette nous coûtent de plus en plus cher sur les seuls intérêts de la dette. Vous savez, au con, la France est un pays qui a une dette, comme tous les grands pays d'ailleurs, et toutes les grandes puissances économiques. Et les intérêts de la dette, pas rembourser ce qu'on doit, juste payer les intérêts, bah aujourd'hui, on le sait, c'est au niveau du budget pour l'éducation. C'est-à-dire qu'on met autant d'argent en France aujourd'hui juste sur l'intérêt de la dette que pour le budget de l'éducation nationale. Ça, on le sait depuis un petit moment, mais c'est ouf, quoi. Si on continue ainsi, on condamne le futur de la France. Bah oui, c'est un argent qui permet pas de construire des hôpitaux, c'est un argent qui ne permet pas de payer les profs. Voilà. Et la liberté des Français. Le déficit doit donc revenir sous les 3%, dit-il. Mais en 3 ans, d'ici à 2027, ce serait pas réaliste, ça mettrait un coup d'arrêt à la croissance. Il vaut mieux se fixer un cap de 5 ans et revenir dans les clous des règles européennes. Comment réduit-on le déficit? C'est là où on va parler des impôts. Pour commencer, réduire la dette, c'est les dépenses. Hein. Nous avons un bon modèle, le même bon modèle social que nos voisins européens, mais il nous coûte trop cher, 10% de notre PIB en plus, soit un écart de 300 milliards d'euros chaque année. Il dit qu'il faut dépenser moins bien. Mieux, pardon. Lapsus. Mais il faudrait aussi, à titre complémentaire, c'est quoi tous ces citrons-là? Oh! Je vois un citron violet dans le chat, je vois des petits citrons violets, je me dis, pop, 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 ça sent ce petit parfum de Japon. Merci Citron Violet, merci pour le raid, c'est trop gentil, en train de parler des éventuelles hausses d'impôts en France. Bah, oh, Citron Violet, ça va t'intéresser. Le MVP de la semaine prochaine, l'émission sur le monde de l'emploi, de tout ça, à 12h le mercredi, on en fait la semaine prochaine, c'est sur travailler à l'étranger. Pa-bam ! Tout le monde les gâteaux. Tout le monde connaît mon ancien nom japonais. Hein. Maintenant, ça a leak. Plus la peine de cacher cette expérience, cette part de ma vie qui a été longtemps liée au Japon, mais que j'ai longtemps cachée. Bon. Samuelu Kurutora, c'est ainsi qu'on m'appelait dans certains milieux japonais, mais nous n'y revenons pas. Donc la semaine prochaine, travailler à l'étranger, ce sera le thème. Aujourd'hui, à 12h, ce sera les conséquences de l'IA sur le marché de l'emploi. Alors, les impôts. Il faudrait aussi, dit le gouverneur de la Banque de France, à titre complémentaire, lever le tabou sur les hausses d'impôts, sans toucher, si possible, dit-il, les classes moyennes, ni les PME. Ok. Donc, que les plus riches. À voir. Les impôts ont-ils trop baissé depuis 2017, puisque ça a été la politique du président Macron? La France n'a plus les moyens de ses baisses d'impôts non financées. Donc, la réponse est oui. Les plus aisés en paient-ils suffisamment d'impôts en France? Je vous rappelle que c'est le gouverneur de la Banque de France qui parle. Un effort exceptionnel et raisonnable sur certaines grandes entreprises, certains gros contribuables, ne doit pas être exclu tant qu'on n'est pas revenu sur 3% de déficit. Tu as des gens aujourd'hui qui sont plutôt du côté libéral de l'économie, on va dire, hein, plutôt à droite, quoi, qui disent « Eh les gars, faut augmenter les impôts sur les plus riches. » Spoiler, non. Ha ha, broubrou ! Il dit oui ! Les mecs, ils disent oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors ça, c'est les discours, c'est les paroles, c'est les machins. Moi, je dis, attendons les actes. Comme toujours, voyons ce qui sera annoncé, ce qui sera décidé. Voilà. Entre les paroles et les actes, parfois, il y a un monde. Voilà. Mais le discours, c'est ça. C'est que ça pourrait augmenter pour les plus riches. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on appelle les plus riches? Où on met le niveau? Est-ce que c'est riche? Est-ce que c'est à partir de 2 000 euros par mois? Est-ce que c'est à partir de 10 000 euros par mois? Est-ce que c'est à partir de 20 000 euros par mois? Est-ce que c'est les revenus? Est-ce que c'est le capital? Est-ce qu'on taxe les grandes fortunes? Est-ce qu'on taxe juste le capital, le cash, les placements financiers? Est-ce qu'on taxe aussi la fortune immobilière? Est-ce qu'on taxe les successions? Lesquelles? Les grosses? Ouais, tu vois. Si je pose la question au chat, là vous êtes 4145, je vais avoir 4145 réponses. C'est quoi être riche? Je vais avoir 4145 réponses. Donc ça, je ne vais pas me lancer dans ce débat parce que je le connais, je l'ai souvent avec vous. Et en fait, on a tous des réponses différentes. Attendons. Ah Isaac, je n'ai pas vu ton message. Je vois ton DM là. Merci pour ton message Isaac, je ne sais pas si tu es toujours là. Merci, ça me touche vachement. On a eu un échange avec un viewer tout à l'heure sur la représentation féminine dans mes streams, qui est un truc très important pour moi. Et Isaac a un petit message et on est en train d'échanger là-dessus. Et Isaac, je te remercie. Voilà. Bon, à suivre. Ah, t'es là. Bah, merci beaucoup. Ça me touche. J'adore vos définitions de la richesse. Hein, est-ce que c'est au-dessus du revenu médian? Hein, c'est pouvoir dépenser seulement la moitié de son salaire pour pouvoir vivre et pouvoir épargner le reste. Hein, j'aimerais payer 1 million d'impôts, dit Fruit Dragon. T'as raison. Moi aussi. Riche, c'est vivre sans être préoccupé des dépenses. J'aime bien cette définition, Fonzie. On est riche quand on paye des impôts pour les riches. Dit Christian. Hein. Être riche, c'est pouvoir partir en vacances quand on veut. Pouvoir vivre sans inquiétude en dépensant plus que les autres. Être riche de ses amis, dit Willard, le philosophe. Ouais. Les riches, c'est ceux qui gagnent plus que moi, dit Quadro Fazon, ce qui est une définition que, à mon avis, que beaucoup ont. À vous d'être riche. Merci Simon Lewis pour les bits. Je suis entrepreneur, dis-tu, individuel, je gagne 8 fois le SMIC par mois. Je paye déjà pas mal d'impôts et pourtant, même si ça ne fait jamais plaisir, s'il faut faire un peu plus d'efforts pour aider le pays, let's go. Voilà. Simon Lewis fait partie de ces gens, et j'en suis aussi, qui sont heureux de payer des impôts. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis très heureux de payer des impôts. Et à une époque, j'en ai payé beaucoup dans ma vie, parce que je travaillais beaucoup et que j'avais vraiment des bons revenus. Et j'en étais, et j'en suis encore, même si j'en paye moins aujourd'hui, très heureux, parce que payer des impôts, bah, ça veut dire que tu as des sous déjà. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne payent pas d'impôts en France, qui ne sont pas éligibles à l'impôt sur le revenu, puisqu'on parle de l'IR, tout simplement parce qu'ils ne payent pas assez. Et je suis sûr que ces gens, ils aimeraient payer plus d'impôts. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'ils gagnent plus, en fait. Voilà. Et donc moi je suis très heureux de payer mes impôts. Alors après je connais le débat. Oui mais l'argent des impôts il est mal dépensé aussi. Alors du coup je suis pas pour. Organisez-vous pour voter pour les gens qui vont bien dépenser votre argent quoi. C'est un autre débat ça. Mais moi à la base qu'on prenne à ceux qui ont de la chance comme moi de vivre leur meilleure vie, de faire un métier qu'ils adorent. En plus ils sont bien payés pour ça. Qu'on prenne à les gens comme moi pour redistribuer. Mais GG quoi, en fait, je suis content, je suis fier. Voilà. Voilà, et bon, c'était le message que voulait nous faire passer Simon Lewis dans le chat à l'instant. Ouais. Merci du disque pour le soutien. Merci Stronville pour le raid adorable. Merci Lemming67 pour le 36e mois. Et Adora Breville, merci pour le sub. Il y a une partie qui partira aux impôts. Et c'est super. C'est super. Voilà, je suis tellement pauvre que je paye pas d'impôts. Bah oui, café au lait, c'est ça. Bien sûr. Non, je trouve pas ça énorme, mais Samuel, tu dois payer vachement d'impôts, je trouve pas ça énorme. Bah, bien sûr, il y a des impôts sur Twitch, c'est-à-dire que le sub, il va pas dans ta poche. Le sub, t'as la part d'Amazon, donc après, la part du sub qui reste quand Amazon a pris sa part, elle va pas dans ta poche, elle va dans ta société, parce que c'est un chiffre d'affaires. Ne pensez, il n'y a pas un streamer qui touche les subs dans sa poche, ça va dans une société, c'est un chiffre d'affaires. Donc après, ça va dans la société. Donc là-dessus, si tu veux te verser un salaire ou un dividende, bah, tu vas payer des charges sociales, tu vas payer de l'impôt sur les sociétés, tu vas payer divers trucs, c'est varié. Donc voilà, mais évidemment, c'est normal d'ailleurs. Et c'est normal. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait, mais voilà. Donc oui, je disais oui. Je disais non, mais moi, je trouve ça très bien. Ça très bien. À une époque, je payais beaucoup plus d'impôts. Et en fait, c'est parce que je gagnais beaucoup plus ma vie, parce qu'à une époque, je travaillais encore plus qu'aujourd'hui dans des trucs qui marchaient bien. Et je payais beaucoup plus d'impôts, mais je gagnais beaucoup plus d'argent. Et à la fin, il me restait beaucoup plus d'argent que maintenant. Donc, quand mes impôts commencent à baisser, c'est pas une très bonne nouvelle. Ça veut dire que je gagne moins. Allez, de parler de moi, on parle plutôt d'un truc qui n'est pas très clean quand j'étais Yakuza. Je ne parle pas de cette période. Je ne veux pas parler de cette période. On a tous le droit à une seconde vie, une rédemption. Ah, quand tu es un tout petit streamer avec une dizaine de subs par mois max, ça rentre dans les revenus personnels sur la fiche d'imposition. Ouais, ça c'est possible, ouais. C'est sûr. Ok. Et toi, Samuel, c'est quoi ta définition de la richesse? La richesse, c'est comme le disait quelqu'un tout à l'heure, c'est le fait de pas d'être arrivé dans un tel confort matériel que tu ne t'inquiètes pas pour les trucs du quotidien. Tu sais que ton frigo va être rempli, tu sais que tes enfants vont pouvoir manger, tu sais que tu vas pouvoir leur offrir le confort matériel minimal pour qu'ils puissent se développer dans de bonnes conditions et qu'ils ne souffrent pas de manquer de quelque chose, qu'ils auront à manger, qu'ils auront chaud l'hiver et que tu vas pouvoir même leur payer les cours de sport, les trucs, les petites vacances sympas. Donc ça veut dire que et que tu vas pouvoir leur faire une petite vie un peu protégée, un peu cool, sans en faire tu vois, des enfants gâtés, c'est très important. Mais en gros, la richesse pour moi, c'est avoir suffisamment d'argent pour ne pas stresser. Tu vois. La chaudière tombe en panne, bon bah c'est chiant, c'est cher, bah on va la changer. Tu vois. La voiture, elle vient de rendre l'âme, parce que moi j'aime bien user les trucs jusqu'au bout, bah c'est pas grave, on en rachète une. C'est pas ça met pas en question ton quotidien. C'est quand en fait les dépenses du quotidien et les accidents du quotidien ne t'impactent pas en mode ok, c'est géré, c'est géré. Pour moi, la richesse, c'est ça. D'ailleurs, il y a des études là-dessus hein, qui montrent qu'en fait le lien entre bonheur et richesse qui montre bah, il y a un moment où en fait c'est pas parce que tu gagnes plus que tu es plus heureux quoi. Tu vois? Le vrai truc, c'est d'avoir besoin de ce qu'il te faut et pas stresser pour le quotidien. Et en fait, tout ce que tu vas gagner au-delà, ça va pas te rendre plus heureux. Ça peut potentiellement même te créer plus de soucis. Comment tu gères ça, etc. Tout, machin, tout. Voilà. Moi, je connais plein de gens très très riches qui sont pas très très heureux. Des gens beaucoup plus riches que moi, et en fait, non. Donc, voilà. Moi, je vois l'argent comme ça. L'argent, c'est un truc un peu bête que je dis souvent. L'argent, c'est un truc qui règle les problèmes. T'as un truc qui casse, t'as un machin qui truc, t'as quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'un coup de main, t'as un accident de la vie, t'as un souci de santé, et ben c'est ok, t'as les sous, t'as un truc qui va pas, au moins matériellement ça va le faire. Ouais. Et bon, et du coup moi j'ai toujours fait, ça, moi j'ai un moment j'ai beaucoup bossé, je bosse toujours beaucoup, mais c'est dans cette optique-là quoi. On continue? Bon, il y a un truc qui n'est pas très cool. C'est que, comme il y a eu dissolution et que le Premier ministre a été nommé très tard, il n'y a toujours pas de gouvernement, ben, l'examen du budget à l'Assemblée, il prend du retard. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, ben, c'est un truc important dans une démocratie. L'exécutif décide d'un budget, mais le Parlement doit avoir son mot à dire et un vote là-dessus. Ben, là, ça se fait avec beaucoup de retard. Le Premier ministre a annoncé que le projet de loi budgétaire pourrait être transmis le 9 octobre à l'Assemblée avec 8 jours de retard sur le délai légal. Éric Coquerel, donc LFI, et Charles de Courson, qui est du groupe Liotte, donc pas du tout la même famille politique, dénoncent tous les deux que les documents n'ont même pas été envoyés, les empêchant de travailler le travail de vérification. Emmanuel Macron aura décidément écrit L'Humanité, c'est un article dans l'Huma ce matin, offert à la France une sacrée collection de scènes surréalistes. On en rirait si elle n'était pas synonyme d'un marasme politique tragique. Par exemple, mardi, ces deux députés que vous voyez en photo, là, Éric Coquerel, LFI, et Charles de Courson, centriste, se sont rendus tous deux à l'hôtel de Matignon pour réclamer des documents relatifs au budget qui ne leur ont pas été communiqués alors que c'est la base, quoi. Le retard dans la transmission ne permet pas à la Commission des finances de préparer l'examen du projet de loi de finances pour 2025 dans un délai raisonnable, expliquent les deux parlementaires. C'est la conséquence de M. Macron qui a eu une urgence à dissoudre avant les Jeux, plongeant la France dans une crise politique dans le retard et mettant en danger le budget. À Seine, Charles de Courson, 31 ans d'expérience au Parlement est reconnu pour son expertise sur la question des finances publiques. C'est un sacré bonhomme, monsieur de Courson. En cause, la dissolution, l'interminable tergiversation du chef de l'État pour contourner les urnes et créer l'UMA qui ont suscité un bazar inédit dans le fonctionnement des institutions, à tel point que le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé lundi qu'il serait probablement incapable de transmettre le projet de loi de finances pour 2025 dans les délais légaux. Hein? L'ancien commissaire européen, donc Barnier, est en effet toujours empêtré dans la constitution de son gouvernement. Moi, j'ai hâte de voir la composition du gouvernement. Entre le président Macron qui dit à Barnier « Je veux un gouvernement ouvert, hein, le plus large possible, hein, avec, il faut que tu me trouves des gens de gauche. » Barnier, qui est issu d'une famille de droite, qui a la pression de tous les mecs de droite de LR qui disent « Ouais, let's go, on va au gouvernement. » Et t'as les gens de gauche qui disent « Mais moi, je veux pas en ton gouvernement, chouchou. Hein. On est arrivé en tête aux élections. » On n'a pas de Premier ministre, tu te débrouilles, quoi. C'est intéressant, ça, j'attends ce gouvernement. Comme le dit Doudou, tout le monde a hâte de voir la tête de ce gouvernement. Ouais. Oh, j'ai pas vu les impôts. Oh, j'ai pas vu le sondage. GG, les... Putain, il est où le sondage? Je l'ai pas. Payez-vous des impôts? Sondage termine. Attends. Vous avez un sondage intéressant, ça. Voir les résultats. Payez-vous des impôts?
Oui.
52%, non, 48%. OK. Merci pour le sondage, bien joué. OK. Et vous avez été 200 à voter. OK, bien joué. Merci les modos. OK. Tacodac. Merci Ego Jared pour le Prime. Ouais, 200 votants, ouais seulement. Peut-être que j'en ai pas parlé aussi. Bonne initiative des modos, mais du coup j'en ai pas parlé, c'est pour ça. Sinon, vous êtes en moyenne, vous êtes entre 10 et 15 millions à voter à chaque fois. C'est bizarre parce que vous êtes 4300 dans le live là, mais j'ai, en ce moment j'ai des stats de fou aussi. Ouais. L'examen donc du budget pour être reporté au 9 octobre, ce qui fait craindre des temps de réduits de discussion en hémicycle, c'est à moins de temps pour les députés pour se pencher sur ce budget. Qui pourrait passer au forceps? Qui pourrait passer? Ah bah, m'engueulez pas, c'est les modos qui ont lancé le sondage. C'est bon, je vais pas faire 10 sondages. C'est bon. Oh, vas-y. Vous voulez pas que je vous fasse à manger aussi? Vous voulez pas que je vienne chez vous ce midi pour vous cuisiner? Et il passait le sondage. Il y a quand même 200 qui l'ont vu, hein. Les autres, vous faites quoi, là? Ça pionce? Et vous prenez un café? C'est fou, ça. Comment ça, j'aimerais bien? Mais je peux pas venir cuisiner chez vous. Vous voulez que je cuisine chez vous? Un nouveau stream. J'irai cuisiner chez vous. Voilà. Allez, qu'est-ce que t'as dans ton frigo? Ok. Qu'est-ce que ça, c'est un reste de cassoulet? Il est de quand? Semaine dernière? Allez, je te... Un peu de fromage dessus. Ça gratine. On enlève les champignons, il y a un peu de mousse verte là. Bam, 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 bam. Ok. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Tiens, Banga, très bien. Bam. T'as du Tang? T'as pas de Tang? Allez, Banga, let's go. Voilà. Et en dessert, voilà, petite boule coco, c'est délicieux, ça pète toujours. Voilà, je les ai ramenés de la maison là. C'était au congèle depuis 2 ans. Allez hop, un petit micro-ondes. Allez! Je vais vous régaler, moi. Donc voilà, donc les délais d'examen du texte vont être raccourcis et il y a un petit parfum de, non pas de cassoulet gratiné, mais de 49.3. Voilà, même si Michel Barnier aimerait bien le faire passer autrement, 49.3 qui pourrait passer puisque si le RN ne vote pas la censure, eh ben, du coup le gouvernement ne serait pas renversé. Scandale démocratique sur une pile déjà trop haute, ce débat fondamental tranche les orientations en matière de services publics, d'accès à la santé, de qualité d'éducation, un budget, ça n'est pas rien. Effectivement. J'allais dire parfum de foutage de gueule, dit Cochon en lamentant. C'est un peu pareil. Donc Le Monde consacre également sa une à ce budget. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez important. Voilà. À quel moment vous ajoutez la crème fraîche quand vous faites des pâtes carbo? C'est un piège, ça, Clamatine is back. Il n'y a pas de crème fraîche dans les carbo. Je demande au chat, ils savent tout. Il n'y a pas de crème dans les pâtes carbo. Je dis une bêtise ou quoi? Il n'y en a pas. Eh ouais, la vraie recette. C'est les Français, là, les mecs qui... Les sagouins, là, qui mettent de la crème dans les pâtes carbo. Eh oui. On en met si on veut. OK. T'as le droit de mettre de la crème. Mais c'est pas des pâtes carbo. C'est autre chose. Non, mais en vrai, c'est bon, c'est délicieux. Vous avez le droit d'en mettre. Mais dites pas que c'est des pâtes carbo. Tiens, je t'ai fait des petites pâtes... Une petite déclinaison, tu vois, je suis parti des pâtes carbo, j'ai mis un peu ma petite touche, tu vois. Voilà. Tu vois. Sinon, vous mangez les pâtes au yaourt des Lydiens. Très bon aussi. Mais les carbo à la française se font que de la crème. Voilà, tu peux dire des carbo à la française, tu peux dire ça. En vrai, c'est super bon. Donc voilà, Le Monde. Là, je suis en train de dire que c'est un peu chaud le délai, le retard, là. Ça n'est jamais arrivé sous la 5e République. Oui, mesdames et messieurs. Pour la première fois sous la 5e, le gouvernement République s'apprête à dépasser les délais légaux prévus pour l'examen du budget par le Parlement. Putain, cette chaise, elle est trop basse, j'ai mal au dos. Bougez pas les BG. Ah non, ça n'est pas du tout un fond vert. Non, 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 non. Non, c'est un vrai décor, ça n'est pas un fond vert. Ah ah, non, je ne vois pas du tout ce qui vous fait dire ça. Ah ah, invention, Bill Vesey. Ça n'est pas du fond vert. Non, mesdames et messieurs. C'est un vrai décor. Hop. Ah, mais voilà, c'était moi en fait depuis le début. Ah. Rayo, il a une Herman Miller maintenant? Ah bah ça sent bourgeoise. Mon Rayo, il a une Herman Miller maintenant. Il a pas sa chaise de jardin là. Il s'est acheté une Herman Miller. Ah bah ça va la vie. Eh ben, ça va le Rayo, on sent bourgeoise un peu. Ouais. Incroyable. Donc voilà, c'est la première fois sous la Ve République. Le gouvernement s'apprête à dépasser les délais légaux prévus pour l'examen du budget par le Parlement. Et c'est pas rien. Hein. Vers une présentation du budget retardé, c'est quand même la une du monde, voilà, pour la première fois sous l'histoire de la Ve. Le gouvernement s'apprête à ne pas respecter les délais légaux prévus pour l'examen du budget de l'État par le Parlement, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans une démocratie, en fait, quoi. Jugeant impossible d'imprimer sa marque sur le projet de budget pour 2025 dans le calendrier fixé par la loi, Michel Barnier a décidé de se donner un peu de temps. Alors en vrai, c'est pas super classe, mais en même temps, il n'a pas le choix. Il a été nommé super tard, il n'a pas son gouvernement, le truc c'est Mission Impossible, sans Tom Cruise, mais avec Michel Barnier, et à un moment, le mec doit faire un budget. Un budget, ça se fait pas sur un coin de table. Tiens, Patrick, je vais lui donner 1 milliard, tiens. Sophie, tu veux combien? Non. Donc en fait, on l'a un peu placé dans cette situation, quoi. Depuis le début de la Ve, en 58, le calendrier budgétaire est particulièrement encadré avec un double objectif. Il s'agit de donner aux parlementaires le temps de débattre en profondeur de ce texte annuel majeur, mais aussi d'éviter que, faute de budget voté dans les temps, le pays ne soit réduit à recourir, comme sous la 4e, à des 12e provisoires des crédits débloqués au compte-gouttes, quoi. Pour éviter le bordel, pour dire les choses, quoi. Cette année, pour tenir ce calendrier, le gouvernement aurait dû au préalable boucler son projet la mi-juillet en ce qui concerne les dépenses et au début de septembre, l'ensemble du texte, évidemment, la dissolution a tout bousculé. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, là? C'est la faute de qui, finalement, que le budget est à la bourre, là? Je sais pas, c'est quand le monde nous dit que c'est la dissolution qui a foutu le bordel. Qu'est-ce qu'est en train de dire le monde, finalement? Pas la faute de Michel Barnier, c'est la faute de qui? On se demande. On se demande. Mieux vaut prendre un peu de temps et que la première copie du projet de loi soit conforme à ce que souhaite le nouveau gouvernement, dit un député Renaissance, par exemple. Là, c'est vrai. Et un socialiste, lui qui s'appelle Laurent Baumel, dit la même chose. Il faut que la France ait un budget, c'est essentiel, qui va contester cela, quoi. Quelle ligne politique voudra-t-on suivre à travers ce budget? Puisque le budget, c'est finalement, c'est ça. Hein, c'est la transcription en euros, en dépenses, en recettes, d'un projet politique. C'est pour ça que le budget, c'est si important. Le budget, qu'est-ce qui nous casse les bonbons avec son budget, Samuel Etienne, et le monde, pourquoi c'est la une? Parce que le budget, c'est la transcription financière d'un projet politique. Souhaitera-t-il être l'homme de la rigueur, Barnier, réduire sensiblement les dépenses publiques, empêcher une aggravation du déficit, comme l'y incite la droite? Ira-t-il rechercher des recettes supplémentaires? Qui m'écrit, malgré les réticences de la droite et de l'extrême droite? Voilà, ça c'est la question, elle n'est pas tranchée pour l'instant. Et un petit mot, j'ai le temps, ouais, un petit mot aussi d'Oxfam, l'ONG, hein, qui dit, nous, on pense qu'il faudrait taxer l'héritage des ultra-riches, le mot ultra est important, et quand ils disent, voilà, quand ils disent taxer les ultra-riches, c'est vraiment l'héritage. Lisons l'Oxfam. Une note de l'Oxfam rendue publique le mardi 17 septembre, donc c'était hier. Au moment où l'ancien commissaire européen, donc Barnier, cherche des dizaines de milliards d'euros pour freiner l'envolée de la dette, sans s'interdire, dit-il, une plus grande justice fiscale, eh bien, les propositions d'Oxfam tombent à pic. Taxer davantage l'héritage des ultra-riches pourrait répondre simultanément à ces deux attentes, remplir les caisses et faire plus de justice fiscale, c'est ce que dit Oxfam. L'idée n'a rien de nouveau. Si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, quelqu'un qui demande où est Oxfam, où est Defend Intelligence? Regarde en bas de ton écran. La matinée Étienne jusqu'à 12h, puis on retrouve MVP pour un deuxième numéro. 12h. Quelle heure il est? 11h04. Bon. Hein? Alors? Enfin. Bon. Alors, enfin, bon. Faut lire aussi les infos. Moi, je me décarcasse pour vous filer les infos, hein. Bon. Alors. Donc, taxer les héritages des ultra-riches. L'idée, rien de nouveau. Si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts type US, au type ISF, déclarait Macron en 2016. Macron, déjà en 2016, il disait plutôt que l'ISF, il faudrait taxer les grosses fortunes au moment de l'héritage. L'économiste Jean Pisani-Ferry, qui a longtemps été proche du président, qui a beaucoup bossé pour le programme économique d'Emmanuel Macron, notamment avant son premier mandat, a aussi milité pour un impôt fort sur les grosses successions. Sur le papier, une telle initiative présente beaucoup d'intérêt pour les caisses de l'État en premier lieu. Elle lui permettrait de récupérer plus de 160 milliards d'euros en 30 ans, ce qui est énorme. Rien que sur les successions prévisibles des milliardaires français actuels. Hein. Politiquement surtout, une réforme pourrait corriger en partie une situation dénoncée depuis des années par de nombreux économistes, le poids croissant de l'héritage. De 35% au début des années 70, la part du patrimoine des Français venant de l'héritage est montée à 60%. On est dans une société qui, année après année, en fait, où la part de l'héritage dans le patrimoine est de plus en plus importante. Voilà. Les riches, aujourd'hui, le sont notamment et de plus en plus en raison de l'argent hérité. Loin des principes affichés d'égalité, de justice, de mérite, de travail, la France devient aussi un pays d'héritiers, où l'ascenseur social est bloqué et où la richesse, notamment immobilière, se concentre entre les mains d'un nombre restreint de familles. Les 10% des ménages les plus riches détenaient 47% du patrimoine total en 2021, 41% seulement en 2010. La meilleure façon de devenir milliardaire, dit Cécile Duflo, qui est la patronne d'Oxfam, c'est en plus... C'est quoi ? Ah oui, la meilleure façon de devenir milliardaire, c'est de plus en plus de grandir dans l'utérus d'une femme de milliardaire, dit Cécile Duflo de façon assez imagée. La fiscalité qui pourrait éviter cette dérive ne joue pas son rôle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'exonérations prévu par la loi, hein, notamment pour les personnes les plus riches, le 0,1% de la population qui hérite de 13 millions d'euros en moyenne. Hein. Normalement, elle devrait avoir un taux marginal d'imposition de 45% sur ces 13 millions, au-delà du 1,8 million. Mais dans les faits, merci Darsalio de Turégal, merci pour les 5 abonnements offerts à la commune, merci à toi. Merci The Professional Son. Merci à tous les deux. Merci Darsalio. Dans les faits, elle devrait payer 45% d'impôts sur les successions au-delà de 1,8 million. Et dans les faits, elle paye à peine 10%. What ? 45%, 10%, les comptes sont pas bons, Kevin, là. Le système est mité par des dispositions d'exonération, d'exemption, assurance vie, démembrement de propriété, transmission d'entreprise familiale. Les experts conseillent de réduire, voire d'éliminer ces exceptions. En fait, il y a déjà dans la loi un taux d'imposition sur les grosses fortunes au niveau des successions très fort, 45%. Mais en fait, il y a plein d'exceptions. Et en fait, on est à 10% en réalité. Toutes les difficultés restent de convaincre les responsables politiques de la pertinence d'une telle réforme. Les Français se déclarant majoritairement hostiles à une augmentation des taxations sur l'héritage. Alors ça, c'est ce que disent les sondages. Quand tu demandes aux Français dans les sondages s'ils veulent qu'on augmente l'impôt sur l'héritage, ils disent non. C'est un truc, c'est non, mes parents ont travaillé toute leur vie pour me laisser le pavillon, pour me laisser un petit quelque chose, pas touche. Ils ont déjà payé de l'impôt dessus, de l'IR, peut-être de l'IS si c'était une boîte. Papa, ça va aller. Donc voilà. Le projet, ce serait plutôt de taxer l'héritage des très très riches. À voir, à suivre. Ouais. Je suis très éco ce matin. Je bois un petit peu de mon breuvage magique là. Voilà, c'est ce que dit Abou. Dans le chat, perso, je trouve ça abusé que l'État ait. Hérite avec les héritiers, surtout sur l'argent qui a déjà été imposé et taxé, voilà. Voilà, Kata Gelzik, juste en dessous, j'ai beaucoup de mal à accepter l'idée de taxer l'héritage, car ça consiste à retaxer ce qui n'a pas été taxé durant la vie de nos parents. Voilà. Hein? Black Knight dit, mais ces ultra-riches ont des combines pour ne pas les payer où en trouveront, voilà. Moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent arrivent grâce aux exemptions, aux trucs, en respectant la loi. Hein. Ce qui est légal n'est pas forcément moral. À payer moins d'impôts, on le sait. Si les règles changent, est-ce cynique ou pessimiste de dire qu'à nouveau, ceux qui ont les moyens de trouver des comptables, des avocats... qui savent faire leur truc vont réussir à contourner les nouvelles règles. Je sais pas ce que t'en penses. On parle de combien de personnes là? Pas peu, mais là, par exemple, le dossier disait que si on taxait uniquement les milliardaires français au niveau de la succession, comme ils le souhaitent là, ce serait 130 milliards d'euros en quelques années, ce qui est gigantesque. Alors, je surveille l'heure. Ça va, ça, on est toujours en temps. Midi, hop, pour ceux qui n'ont pas la ref, midi, hop, time out, numéro 2. L'émission qui. Ça marche ou pas? Ah. Qui explore toutes les voies professionnelles pour que vous puissiez trouver la vôtre, que vous soyez jeune, collégien, lycéen, étudiant. Oh, j'ai dit time out encore. MVP, putain. Je mélange entre mes deux gros projets. Putain, je fais trop de trucs en ce moment. MVP, ma vie pro. C'est fou ça. Ne vieillissez pas, hein, la vieillesse est un naufrage. Donc MVP, ma vie pro, c'est pas compliqué pour toi. L'émission qui explore les voies professionnelles pour que vous puissiez trouver la vôtre, voire en changer si vous n'êtes pas super heureux de ce que vous faites. Voilà. Tous les 2 fois par mois, même 3 fois en septembre, on explore les métiers, des secteurs. 3 invités, 3 chroniqueurs. C'est un feu d'artifice. Il y a des feux d'artifice, il y a des fumigènes. Il y a un moment, je crois qu'il y a un moment, il y a un éléphant qui va traverser le studio. Voilà, c'est. Super prod. Il y a notamment Pépin que j'adore qui va nous faire une chronique sur l'IA, parce qu'on a beaucoup parlé d'IA aujourd'hui à midi. Les conséquences sur son métier, par exemple, de graphiste, d'illustratrice, de peintre, de dessinatrice. Defon Intelligence, qui est un ingénieur spécialisé en IA de Marseille, que j'ai déjà reçu dans l'hebdo Étienne il y a quelques mois, qui est vraiment un expert sur ces sujets. Voilà. Clément Viktorovitch, qui n'est pas un expert de l'IA, mais on l'a invité parce qu'on l'aime bien. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, on l'aime bien, mais. On ne l'a pas invité pour ça. À chaque fois, il y a un grand invité qui, à la fin de l'émission, revient sur son parcours en se disant eh, peut-être que dans le parcours de telle ou telle personne, on l'a reçu Enjoy Phoenix il y a 15 jours, eh ben, il y a peut-être des motifs d'inspiration sur les choix qu'il a fait ou qu'elle a fait. Voilà. Et donc, Clément Viktorovitch, qui est un politologue qu'on adore et qui est sur Twitch, qui est streamer aujourd'hui. Clémovitch est en live? Ah ben, non, mais ça va, le coup. Clément, il va être avec nous vers 13h30. Ça va, il lui reste 2h15. Donc Clément sera avec nous. Assez... Et Defund aussi? Alors ça m'inquiète un peu parce que Defund, il est à Marseille à la base. Alors si tu me dis que Defund Intelligence est en live, alors qu'il est à Marseille, ça par contre, ça m'inquiète. C'est une blague, c'est une blague. Non, ah la blague, putain, je me suis fait avoir. Ah, je me suis fait avoir, quoi. Ok, bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ok. Samuel Etienne en live? J'espère qu'il n'a pas oublié qu'il avait une émission à midi, quoi. Voilà. Donc, il y a Anis, parce que Defun Intelligence, son prénom, c'est Anis. Pépin, il y a Ludovic B qui est avec nous à chaque émission, qui est un YouTuber qui est spécialiste justement des questions d'emploi et qui explore tous les métiers et tout. Formidable. Et Clément Viktorovitch, et il y a un invité surprise, et il y a un invité pro aussi qui nous parlera de son entreprise qui, justement, travaille beaucoup avec l'IA. Pas mal, non? Il était vraiment là, il y a 15 minutes. Ok. On m'a dit qu'il était à Paris et qu'il avait un studio qu'on lui a prêté. Non, il n'y a pas Pascal Pro. L'invité pro, c'est Pro PRO. C'est pas PRAUD qui n'est pas invité dans cette émission. Et la personne devant, c'est. Mais. Bah, je crois que c'est assez clair. C'est qui lui? Mauvaise réponse uniquement acceptée. C'est qui lui? Je veux que des mauvaises réponses. Beau gosse, IA, Brad Pitt, ok, Samuel Clotola, Domingo N'Golo Kanté, Patrick Bruel, mon père, Jean-Claude Van Damme, le futur président de la République, Gecko, Julien Lepers, Teddy Riner. Une calvitie, je t'emmerde. Monsieur le Président, Georges Clooney, Étoile, Ponce, Didier Drogba, Zidane. Il y a beaucoup de Teddy Riner, c'est très surprenant. Mimi Mati, ah ben ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, voilà, ce sera à partir de midi. Donc, une bonne nouvelle, c'est en une de la croix. L'inflation baisse. Domingo Vieux, oh, putain, vous êtes chier, putain. Putain, c'est dingue ça. Merci Spartacon pour le soutien. L'inflation, bah, elle est un peu derrière nous, dit Lacroix. Vous vous rappelez, à un moment, on parlait que de ça. L'épisode inflationniste qui a connu le monde occidental depuis 2020 est en passe de s'achever, mais il a laissé des traces profondes dans l'économie. Voilà. La réserve fédérale américaine devrait baisser ses taux aujourd'hui, pour la première fois depuis 2020, donc voilà, c'est une actu. Dans le siège de la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui l'a déjà fait. Elle... C'est 30 secondes, The Original Pimous, le mode lent sur la revue de presse. 10 secondes, c'est pour le gaming. Pas de souci. Elles entérinent ainsi la fin de la crise inflationniste qu'a connu le monde occidental après 40 ans de prix sages. Pas de souci. Pas de souci. 10 secondes pour le gaming, pourquoi ? Parce que comme ça, backseat à fond. Et sur l'actu, quand il y a des débats un peu enflammés, c'est 30 secondes. Voilà. Et quand quelqu'un parle de ma calvitie, on passe à un délai d'une heure entre deux messages. Voilà. Ça, c'est une règle que je viens d'inventer. Merci, Joe, pour le soutien. Ça va ? Mais cette crise a laissé des traces dans l'économie. Vous avez un dossier dans la croix qui est vachement intéressant. L'épisode d'inflation qui a touché le monde occidental à partir de 2020, après 40 ans de prix stables, semble désormais du passé. Ça va, mon Joe ? L'une après l'autre, les banques centrales entérinent cette nouvelle donne en abaissant les taux d'intérêt qu'elles avaient augmentés pour lutter contre la hausse des prix. La valse des étiquettes dans les rayons des supermarchés depuis 3 ans a marqué les esprits. Le plus dur semble passer. Hein, y a des baisses de prix qui commencent à apparaître dans les rayons. À ce rythme, les 3 années d'inflation ne sont pas prêts d'être rattrapés parce qu'en fait, les prix, il y a des petites baisses de prix qui arrivent, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre, les baisses de prix, elles ne sont pas à la hauteur des hausses de prix ces dernières années. C'est bizarre, comme ça, il y a un petit phénomène de cliquet. Ça monte comme ça, puis après, quand ça descend pas comme c'était avant. Enfin, voilà. C'est le constat de la croix, au niveau de l'alimentation. Ne t'inquiète pas, Étienne, tu n'as pas de calvitie, juste un petit champ clairsemé d'un début d'automne. Merci, Captain Planet, merci beaucoup. Comme c'est bizarre. Est-ce que le pouvoir d'achat des Français a diminué ? Malgré l'épisode inflationniste, le budget des ménages ne s'est pas écroulé hein, en France, puisqu'il y a eu des mesures de protection, notamment sur le prix de l'énergie, vous vous souvenez ? Mais cette évolution cache de nombreuses disparités. Les seuls vrais bénéficiaires se situent en haut et en bas de l'échelle des revenus. D'un côté, les 20% les plus riches ont vu leur revenu du patrimoine croître fortement pendant cette période. De l'autre, les 10% les plus pauvres ont bénéficié de la hausse des prestations sociales. Entre ces deux extrêmes se retrouvent 70% des Français qui sont les perdants de l'inflation. La croissance peut repartir ? Se demande Lacroix. Le dérapage des comptes publics va conduire le prochain gouvernement à des coupes budgétaires, on en parlait tout à l'heure. C'est ce que prévoient les économistes. Peut-être à des hausses d'impôts. Nous prévoyons une récession en France, dit l'économiste Grégoire Kounowski. L'incertitude politique créée par la dissolution a en effet conduit les entreprises à geler leurs investissements, les ménages à épargner à un niveau record. Sans oublier la très mauvaise santé des économies allemandes et chinoises, les vives tensions commerciales et géopolitiques. Et il faut compter avec des facteurs plus structurels qui freinent notre croissance, notre potentiel de croissance, la diminution de la natalité en France, la baisse structurelle de la productivité. Sans productivité en hausse, pas de croissance solide, relève les économistes. C'est vraiment ce qui met en difficulté notre modèle social. Après, bon, il y a la question des taux d'immobilier, est-ce qu'ils vont baisser ? Oui, a priori. Voilà, le problème, c'est que si les taux baissent, normalement, on pouvait emprunter plus d'argent pour acheter, sauf que du coup, peut-être que les prix de l'immobilier vont repartir à la hausse. Voilà. D'où l'urgence, écrit Lacroix, pour le prochain gouvernement, à mettre en place un plan logement. Enfin, quoi. Quand on connaît la situation du mal logement en France, du logement tout court, quand on connaît la difficulté des jeunes salariés de pouvoir payer un loyer ou de pouvoir acheter un premier logement, on a un vrai problème sur le logement en France. J'ai l'impression qu'on n'en prend pas la mesure. Voilà. Tout ça, c'est dans la croix. Bon. Le logement, c'est la plus grosse crise, je trouve. Minère, la plus grosse crise, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, je trouve que on n'en parle pas assez. The War of Mind, c'est bien, Darsaliot ? Il y a Darsaliot qui a dépensé des points de chaîne pour me suggérer le jeu. Comment tu dis ? This War of Mind ? C'est This War of Mind ? C'est bien ou pas ? Hier, on a parlé d'un jeu dans l'actualité, dans un article des Échos. Et vous me dites que c'était super, un nouveau jeu qui cartonne. Et du coup, j'ai l'éditeur du studio, enfin le studio, l'éditeur du jeu, qui m'a envoyé un mail après le stream d'hier matin avec une clé pour le jeu. Quoi. Je dis, vas-y, joue quoi. C'est un jeu où tu joues des réfugiés de guerre. Waouh. Ça a l'air ouf. Ok. C'est Warhammer Space Marine 2. Non, c'est pas une sponsor, ils m'ont dit vas-y, joue quoi. Non, non, c'est pas de sponsor. Je sais pas si je trouverai le temps. Hier, on en parlait. Donc, je vais peut-être trouver un moment, je sais pas quand, pour jouer quoi. Voilà, sachant que faut que je rejoue à Apex aussi. Parce que j'ai ma compète vendredi 20h, j'ai une compète. Il faut que je joue aussi à Diablo 4. En urgence. Oh, j'y arriverai jamais. Putain, les journées font que 24 heures, c'est un enfer. Et quand est-ce que je joue à Valo? Et à The Witcher 3? Oui, il faut que je joue à Diablo 4, là, en urgence. Putain, j'arrive pas. Pas assez de... Non, c'est pas fini, Valo, c'est mon jeu. Ah, je veux devenir Silver. Je veux pas seulement revenir en bronze, je veux devenir Silver. Silver, Gold, Radiant, championnat du monde. Voilà. Je peux le faire. Last of Us, trop envie aussi, mais après, j'attends peut-être que quelqu'un me propose dans Simplay. C'est bourrin, Diablo 4 okay. Bon, je vous reparle d'un truc sérieux et triste aussi. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y a un journaliste français qui avait sorti un livre enquête sur les maisons de retraite, notamment Orpea, pour dénoncer la logique de certains groupes privés qui se faisaient de l'argent sur le dos des personnes âgées. Quoi. En rappelant que toutes les maisons de retraite ne sont pas gérées comme ça, mais voilà, ça avait fait une sacrée polémique. Et bien, ce même journaliste vient de faire la même chose pour des crèches privées, et en disant, eh ben, c'est pareil, t'en as qui essayent de se faire du beurre. Pas plus sur les petits vieux, mais sur les bébés, quoi. Ok. Cas de maltraitance. Logique low cost. Les crèches privées, moi j'ai envie de dire des crèches privées. C'est pas les crèches privées. Hein. Des crèches privées dans la tempête, dans une enquête de la même manière, c'était pas les maisons de retraite, c'était des maisons de retraite. De quoi tu as déjà ta place chez Orpea? Mais je suis dans mon EHPAD actuellement. Hein. D'où le fond vert. En fait, là je suis dans la cantine, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'arrête à midi, c'est parce qu'après, il y a tout le monde qui va venir manger. On mange très tôt ici. Voilà. Puis on mange des trucs un petit peu mous, parce qu'au niveau des dents, c'est compliqué. Je suis dans mon EHPAD. Je suis dans la cantine, en fait. Je suis dans le réfectoire. Un petit fond vert, rapide. Le bingo, bah, c'est à 15h. Après, on va dormir. Dans une enquête édifiante, le journaliste Victor Castanet dénonce un système dont le groupe People and Baby est le symbole. Voilà, c'est eux, en fait. Son nouveau livre enquête raconte une fois encore la manière dont notre société traite les plus vulnérables. 2 ans après les fossoyeurs dans lesquels il dénonçait le business du grand âge chez Orpea, leader mondial des EHPAD, le journaliste indépendant Victor Castanet, il fait un sacré boulot lui, hein, s'attaque à celui des crèches privées et à la maltraitance des tout-petits. Dans Les Ogres qui paraît aujourd'hui, chez Flammarion, l'Orpea de la petite enfance s'appelle People and Baby. Hein. L'exemple le plus caricatural des ravages que peuvent provoquer la privatisation et la financiarisation à outrance d'un secteur, explique le journaliste qui a enquêté pendant 2 ans et interrogé près de 200 témoins. Le mec a un peu taffé quoi. T'as 2 ans de travail. Le groupe People and Baby, 583 crèches privées accueillant 11 000 enfants, qui accumulent le plus de procès aujourd'hui. Mais Camille, Est-ce qu'on peut applaudir Camille qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté, s'il vous plaît? Merci Camille, tu régales. Merci Antec. Et surtout, celui dans lequel l'emploi d'une crèche lyonnaise a causé la mort d'une petite fille de 11 mois, vous vous souvenez peut-être de cette sombre histoire, en juin 2022, en lui faisant intégrer de la soude caustique, un liquide pour déboucher les toilettes, quoi. C'était une salariée de ce groupe. Ouais. C'est peu avant ce drame que Victor Castanet avait débuté son travail d'enquête sur les crèches privées. Le Bernard Tapie, ingéré. Le Bernard Tapie des crèches, c'est ainsi que Victor Castanet surnomme Christophe Durieux, entrepreneur venu de la com, fondateur avec sa compagne infirmière puéricultrice de People and Baby, en 2004, exclu en 2011 de la Fédération française des entreprises de crèche. Le groupe est exclu de la Fédération française des entreprises de crèche depuis 2011, hein, depuis 13 ans, pour pratique déloyale. Donc vous voyez qu'il y a quand même un truc bizarre à la base, quoi. Christophe Durieux est décrit comme un ingénieux roublard. Il est cet homme qui arrive en rendez-vous aux commandes d'un hélicoptère. Hein, heureux comme un enfant, constitue soigneusement son patrimoine immobilier tout en imposant une dynamique low cost poussée à l'extrême. Dans les années 2015-2020, alors que le groupe est en pleine croissance, tout va bien. Consigne est donnée de rationner les couches pour les enfants. On ne change pas un enfant pour un petit puits. Vous attendrez une heure de plus. Moins de couches, quelques centimes d'économie. Centimes, plus centimes, plus centimes. Tout va bien. Hélicoptère, baby. Merci Skysama. Merci PapKid75. Concocter des repas avec un grammage inférieur de 12% en préconisation, ils vont manger moins. Ils mangeront mieux ce soir chez leurs parents. C'est dingue. De concocter des repas, ça je l'ai dit. De faire du surbooking de berceau. Voilà. T'as 11 berceaux ? Vas-y, prends 13 gamins. On va s'arranger. Enlève les trucs dans le placard, là. Voilà. Le taux d'occupation est le nerf de la guerre. Sur 400 pages, Victor Castanet file la cruelle métaphore du grand méchant loup à l'appétit féroce, lui qui dévore les enfants. Dans la deuxième partie de son livre, il raconte des faits de maltraitance dans la crèche de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, le 23 septembre prochain. Deux anciennes salariées d'entreprise seront d'ailleurs jugées pour violence sur mineur, pour des faits remontant en 2021. Il concerne 9 enfants. Sofiane, le fils de Zora, par exemple, il avait 2 ans à l'époque. Hein, ses parents notent un changement depuis qu'il est dans la crèche. Il fait des cauchemars, il ne veut plus à la crèche, il maigrit. Zora découvre un soir des traces de bleu, de griffures sur l'épaule. Le bras et le cou de Sofiane, voilà, la forme d'une main d'adulte, raconte la mère. À l'automne 2021, Yacine Bouchra reçoit le coup de fil d'un policier de Lille, lui expliquant que dans le cadre d'une enquête en cours concernant la crèche, une déposition concerne son fils, Sacha, un autre enfant donc. Lui remonte les souvenirs de l'époque, Sacha ne voulait plus aller à la crèche. Avec sa femme, il le récupérait la couche pleine et affamée. Hein, en 2023, par le biais d'un avocat, ils vont finir par apprendre que Sacha a été enfermé, tout seul, dans le noir. On parle d'enfant de 2 ans. Hein. Ils comprennent alors sa phobie de l'obscurité. Le livre relève plusieurs cas de trauma post-traumatique, de stress post-traumatique. Ouais. C'est ça. Hein. Cassure dans les courbes de poids, fesses irritées, griffures, ces mêmes éléments reviennent dans plusieurs crèches du groupe, du 16e arrondissement de Paris au Mureau dans les Yvelines, à Montreuil, à Lyon, hein, où une petite fille est donc morte empoisonnée. Christophe Durieux et ses équipes expliqueront à l'époque de la mort de cette petite fille un acte isolé commis par une professionnelle en dehors de tout soupçon, mais le journaliste, lui, qui a bossé, qui a enquêté, raconte avoir appris que quelques mois avant ce drame, Babylou, concurrent de People and Baby, avait embauché la femme auteure de l'homicide avant de mettre fin à sa période d'essai au bout de 5 jours seulement parce qu'elle avait été jugée incompétente. Si People and Baby est assurément le grand méchant loup, il serait erroné de le qualifier de mouton noir, explique le journaliste. Dans les orgues, il dénonce la logique low cost des grands groupes privés. Lucratif, c'est 25% des places de crèche en France. Il rappelle surtout que le secteur est largement subventionné. Voilà. Si jamais vous êtes jeune parent, voilà, faites super attention où vous mettez vos enfants. Toutes les crèches privées, évidemment, ne se comportent pas comme ça. Mais il y a une logique de la recherche du meilleur profit qui conduit aux choses qu'on vient d'évoquer. Quoi. Voilà. What am I doing here ? Merci d'être avec nous, d'ailleurs, qui dit « J'ai un bébé en crèche, pas aujourd'hui, il est malade. » Écoutez ça, on retourne l'estomac. Voilà. Ouais. Écoutez, voilà, faites attention à vos enfants, écoutez-les. Hein, parfois, on dit qu'ils sont trop petits. Écoutez, essayez de trouver les signaux, les machins, au moindre doute. Faites attention, quoi. Voilà. Les crèches municipales sont pas non plus des modèles, ni trop, c'est ça, hein, on est bien d'accord. Et en fait, il s'agit pas de dire que toutes les crèches privées sont formidables et que toutes les crèches privées sont nazes et que toutes les crèches publiques sont top. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est la même chose pour les EHPAD. Ah, je suis malade depuis hier. Et ce livre me rend encore plus malade. Mais pour d'autres raisons. Alors, on finit avec un papier que je trouve incroyable, puisque à midi, on va donc retrouver MVP, cette belle émission sur le monde du travail consacrée aujourd'hui aux conséquences de l'IA sur les emplois. Ça va être une super émission avec que des gens sympas. Et justement, dans Le Monde, j'ai trouvé... dans la dernière édition du journal, un papier assez passionnant sur les jeunes au travail. Et ce malentendu des générations, avec cette génération qui arrive sur le marché de l'emploi, et des employeurs ou des cadres qui disent « Ah ouais, mais ils veulent plus rien foutre, t'as de feignants, et puis ils veulent pas travailler jusqu'à 22 heures, et en plus ils veulent être correctement payés, et ils veulent qu'on les respecte, qu'est-ce que c'est que ces branleurs ?» Voilà, donc des... Voilà. Et donc c'est intéressant, il y a un petit conflit générationnel dans l'entreprise, et il y a un papier dans Le Monde qui est vraiment génial. Depuis plusieurs années, ils concentrent toutes les critiques à écouter leur chef, ils seraient infidèles, individualiste, rétif à l'autorité, cette voix que je prends, obsédé par l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Quoi ? Vous voulez une vie personnelle ? Hein ? Trop souvent prompt à démissionner, parce qu'en plus, quand c'est pas bien, ils se barrent. Ils, ce sont les jeunes de la génération Z, nés dans les années 90, qui arrivent sur un marché de l'emploi qui leur est désormais favorable, puisque le chômage a baissé, et mettent en difficulté les ressources humaines, qui sont pourtant si sympathiques, si chaleureuses, si ouvertes, aux soucis des salariés, on les connaît bien, les RH, des entreprises. Combien de colloques, d'études scientifiques, de rapports, d'articles de presse, dont celui-ci ou de livres portent sur le sujet brûlant des jeunes au travail. Brice Teinturier, le sondeur d'Ipsos, parle d'un malentendu, lui, entre les chefs d'entreprise et les jeunes âgés de, on va dire, de 18 à 28 ans aujourd'hui. Que dit-il ? Il dit 86% des chefs d'entreprise estiment que la génération Z est vraiment différente de la génération d'avant. 70% qu'il est difficile d'identifier leurs aspirations professionnelles. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? 49% d'entre eux qu'il est difficile de les faire évoluer dans le monde de l'entreprise. Mieux ou pire, un tiers des patrons interrogés pensent que l'arrivée de ces jeunes salariés dégrade l'organisation du travail. Quand vous demandez aux patrons, ils ne sont pas super chauds sur cette génération, ces aides, c'est ça ? Ce malentendu estime... calme d'âme, mon Sam. Non mais c'est drôle quoi, en vrai. Ce malentendu est d'autant plus prégnant qu'en raison de la démographie et de l'allongement de la durée du travail, jusqu'à 4 générations peuvent aujourd'hui cohabiter dans le milieu professionnel avec des attentes sensiblement différentes vis-à-vis du travail, estime Yann Orpin, hein, qui est le PME, le chef d'une PME, le patron d'une PME spécialisée dans le nettoyage industriel. Et il dit, ben, par exemple, les anciens sont très attachés à la notion d'horaire, hein, faire des heures, alors que les plus jeunes sont clairement demandeurs de plus de flexibilité, de télétravail, d'horaire aménagé. Mais surtout, a-t-il l'impression, ce patron, le travail ne serait plus pour les jeunes générations plus qu'une pièce du puzzle de leur vie, là où il reste central chez leurs aînés. Face à cette évolution perçue, les entreprises doivent apprendre à avoir plus de souplesse, dit-il, dans la façon de gérer les équipes, à être pragmatiques, intelligentes pour ne pas passer à côté de talents, hein, mais sans transiger non plus sur la réussite de l'entreprise. Chez les représentants d'autres milieux professionnels interrogés par Le Monde, le même constat revient dans le monde feutré des grands cabinets d'avocats d'affaires notamment. Alors chez les grands cabinets d'affaires, là, l'engagement des jeunes collaborateurs est devenu un sujet épineux. Olivier Jouffroy, spécialiste en fusion-acquisition, né en 1980, parle d'un gouffre avec la génération qui est en train d'arriver sur le marché. On sait bien dans notre milieu qu'on achète de la disponibilité, plus qu'un niveau de diplôme, c'est aussi pour ça que les rémunérations sont plus élevées. La disponibilité, soit la capacité à travailler beaucoup, longtemps, serait devenue un critère de distinction au sein de ce vivier de jeunes avocats. Voilà. Notamment à certaines périodes de l'année, quand l'activité est intense, les avocats peuvent travailler tous les jours, 24 heures sur 24, dit-il l'associé. Comment ça, tous les jours, 24 heures sur 24 ? C'est-à-dire, comment ça, 24 heures sur 24 ? C'est une image, je pense, non ? Sauf qu'aujourd'hui, ben, ils acceptent un peu moins que nous ces conditions. Certains rendent aussi des travaux inégaux, trient les dossiers qu'ils jugent les moins intéressants. À bien des égards, ils sont smart, matures, probablement plus éveillés que nous, mais moins prêts à cette fameuse disponibilité totale. Pour recruter les associés de demain, Olivier Jouffroy tente de récupérer les profils avec trois critères un peu particuliers en tête. Il cherche des jeunes qui n'ont pas les mêmes aspirations que leur génération, donc il cherche des jeunes différents des jeunes, quoi. Des jeunes éduqués par le parent souvent plus âgé pour qui le travail est une valeur cardinale, ou ceux qui ont un fort désir d'ascension social. Ce décalage d'aspiration est aussi décrit par les jeunes diplômés. Chloé, 28 ans, qui est avocate passée par un des plus anciens cabinets de droit des affaires de Paris, se souvient de son stage de fin d'études dans une ambiance de compétition exacerbée. Celui qui reste plus tard a gagné. Moi, je partais à 21h, mais j'avais l'impression de ne pas faire assez et je n'avais pas envie de me dégoûter de ce métier. Cette première expérience conforte la femme dans sa quête d'un cabinet plus petit, plus jeune et plus humain. C'est un peu... un des messages qu'on essaie de faire passer dans l'émission MVP qu'on retrouve à 12h, là, c'est qu'en fait, à chacun, selon ses aspirations, ses valeurs, son centre de gravité, son équilibre, bah, lui, de trouver l'entreprise qui partage cette philosophie. Qu'il n'y a pas de modèle idéal en soi, quoi. Déboussolé par ces nouvelles aspirations des jeunes actifs, réels ou simplement ressentis, les chefs d'entreprise et managers ne relativisent-ils pas, malgré eux, des préjugés plus larges sur les jeunes et leur hypothétique rapport au travail? En tout cas, c'est ce que estime l'Association pour l'emploi des cadres et du think tank Terra Nova, qui estime qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi. Voilà. Car lorsqu'on leur pose la question, je ne sais pas ce que vaut cette enquête, les 18-29 ans disent accorder autant, si ce n'est plus, d'importance à leur travail que leurs aînés. Voilà. Chez Ipsos, Brice Teinturier le résume en une phrase, cette génération a autant le goût du travail que les autres, mais elle ne consent à aucun sacrifice s'il n'y a pas de contrepartie financière. Bon, ils veulent plus se faire avoir, quoi, en vrai. Ils sont OK pour bosser beaucoup, ils sont OK pour que ça prenne une part très importante de leur vie, mais dans ce cas-là, faut un peu avancer la thune, quoi. Normal. Comment expliquer ces incohérences entre le ressenti des uns et des autres? Les jeunes prennent aujourd'hui plus la parole pour dire ce qu'ils attendent du travail, mais de nombreux anciens se retrouvent dans leurs propos sans oser le demander, dit une enseignante chercheuse. Il y a peut-être des salariés plus âgés dans la boîte qui, quand ils voient les jeunes un peu en mode « Ouais !» ils disent « J'aurais bien voulu le dire aussi, moi. » Heureusement que ça bouge, dit Hamlet du fromage. Joli pseudo. Bah oui. Merci Simonowitz pour les bits et pour le message surtout. Merci Giggs pour le soutien. Merci Skysama. Merci Papkit75. J'en fais partie en toute honnêteté, dit Chadso. J'ai vu mon père perdre sa santé au détriment de son travail. Ça me pousse à me mettre au premier plan. Pardon, ça me pousse à mettre au premier plan ma santé mentale. Je suis cadre aujourd'hui, j'adore mon travail. Mais s'il n'y avait pas un bon équilibre vie privée slash perso, je partirais sans hésiter. Je suis totalement d'accord avec cet article et les conclusions. Tu sais quoi, Chadso, tu as raison. Merci, Beurre de Michel. Oh, Beurre de Michel. Joli. Merci pour le deuxième mois. Merci le studio... Ah, oh, comment ça va? Allez voir le studio Geek. Ils font des trucs de fou. Merci pour le sixième mois d'abonnement. Alors, Flingo, je t'envoie de la force, mon chouchou. T'inquiète, c'est des petits accidents de vie, comme on va tous en vivre, quand on a tous en vécu, et la vie se poursuit. Dans pareil cas, occupe-toi, fais des trucs. Ça va pas atténuer la tristesse, le chagrin, voire la douleur. Mais au moins, tu vas faire des trucs pendant cette période un peu de reconstruction, là, sur laquelle t'as pas la main. Fais des trucs, occupe-toi, fais du sport, bouge, bosse si tu veux, vois des potes, voilà, défonce ta console ou ton PC sur des jeux. Amuse-toi, encore une fois, ça atténuera pas forcément le chagrin, mais au moins t'auras fait des trucs. C'est mon petit message de vieux. Je me suis barré de mon ancien taf suite à un rachat qui se passait mal, ça commençait à me bouffer. Alaric, t'as raison, ne vous laissez pas. Ah, il y a quelques temps, on a eu le témoignage très touchant d'un jeune dans le chat qui était en alternance, là, je crois. Dans une boîte, ça se passait pas bien du tout, et on sentait qu'au niveau de la santé mentale, c'était waouh. C'était vraiment très dur. Et on a pris le temps d'échanger avec lui. Je dis on, vous et moi, pour lui donner des tips en disant écoute, te laisse pas faire. Surtout, si vraiment ça va pas, va voir un médecin. Parle-en à tes proches, ne reste pas isolé. Voilà. Et puis, je crois que la personne était revenue vers nous en disant quelques jours après qu'il était allé, qu'il avait dit à la boîte et à son école ce qui se passait et que les choses s'étaient arrangées. Donc, ne restez pas seul, quoi. Et si vraiment vous avez une boîte où les valeurs ou l'ambiance est pourrie, barrez-vous, trouvez idéalement le job avant de partir comme un prince, comme une princesse, en mode bon, ça va pas être possible, hein, je vous l'avais dit, là je m'en vais. Mais ma pauvre fille, mais mon pauvre garçon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu crois que tu vas retrouver un emploi comme ça? Tu ne mesures pas la chance que tu avais, hein? Ça, c'est des trucs que j'ai déjà entendus, moi, dans ma carrière. Moi, j'aime bien bouger d'aventure de temps en temps. Et là, tu dis comme un prince, tu dis ne t'inquiète. T'inquiète. Et puis le lendemain, tu bosses, tu démarres ton nouveau boulot dans une autre boîte que tu as trouvée. Ça, c'est masterclass. Donc voilà, idéalement, trouver le truc avant pour partir bien, 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 quoi. Merci Corentin pour le soutien. Merci horrible toi là. Merci Jérôme P. Je ris. Il y a Top Schneck dans le chat qui dit Attention, les jeunes, vous allez en prendre plein la tête. Salut Sam, j'ai 40 ans, donc je m'estime plus jeune. Si, par rapport à moi, t'es un enfant. Mais pas encore vieux non plus. Si, c'est vieux quand même. je ne vais pas parler de tous les jeunes, ne les connaissant pas tous, mais juste de ce que je peux constater au sein de ma boîte. Les jeunes entre 25 et 30 ans veulent des salaires élevés, sans la moindre expérience. Lorsqu'on les conseille, ils se foutent éperdument et n'en font qu'à leur tête, pensant mieux savoir que tout le monde. Et ce qui engendre souvent des conneries. Tu rigoles, Top Schnee. J'adore. Bah oui, peut-être, je sais pas. Dis donc, il y a des jeunes dans le chat là qui font ça là. Pas d'expérience, gros salaire, à râler tout le temps, jamais écouter. Il y en a. Louison dit oui, moi je fais ça. C'est un nouveau local et c'est un fond vert, c'est les deux, Mooncake. Pour l'exclamation, c'est plus studio, je crois. C'est moi, je me reconnais, dit Alex. Non, dit Maribule, mais bonne idée, je vais faire ça. Et, attends, Areskin, il dit bien, il généralise pas, il dit que dans sa boîte, il y en a des comme ça. C'est facile à dire quand de dire changer de boulot. Parfois, quand c'est pas possible, malheureusement, c'est plus compliqué. Bah, Shaki, j'entends. Hein. On va pas raconter ma vie pendant des heures, mais quand je dis changer de boulot, j'ai pas dit que c'était facile. Moi, moi, ça m'est arrivé de chercher le poste d'après parce que j'étais pas heureux au travail pendant 2 ans ou 3 ans. J'ai pas dit que tu prenais ton Nokia 3310, ton Minitel, et que hop, tu faisais clic-clac et tu trouvais un emploi le lendemain comporté comme un prince. Moi, j'assume avoir cherché parfois pendant 2 ou 3 ans le job d'après parce que. Parce qu'en fait, c'est difficile de trouver un nouvel emploi. Je vous ai dit à un moment que c'était facile ou pas? Non. Alors, 2 ou 3 ans à chercher, donc me faire bien chier dans mon truc. Donc, mais voilà. Mais pas, donc, bah, par contre, il faut chercher, sinon tu ne trouves pas. Quoi. Donc c'est trop chaud. Je sais plus qui avait dit à une époque qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi, mais je crois que c'est trompé. Donc bien évidemment que c'est dur. Mais quand t'es pas bien dans un boulot, il faut tout faire pour trouver autre chose, quoi. J'ai fini aux urgences à cause de mon ancienne alternance, me dit Mathilde. Le stress m'a causé des soucis de santé physique. C'est exactement ça qu'il faut éviter. J'adore la phrase, dites un coup, si vous êtes mal là où vous n'êtes pas des arbres, bougez. Joli. Et en plus, le problème, c'est que parfois, c'est pas la boîte, c'est pas l'entreprise en soi, c'est un manager à un moment donné. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer dans une boîte où tout va bien, valeur, cadre de travail, ambiance, puis à un moment, le management change, la boîte est rachetée, ou voilà, ton N plus 1, c'est plus le même. Et c'est l'enfer. Et c'est l'enfer. Et c'est ça aussi. Parfois, c'est ça aussi. Bah, et là, il faut... ça peut être changer de service aussi, ça peut être changer de... Tu vois, quand j'ai changé de boîte, ça peut être aussi changer de service, ça peut être... je sais pas, ou... changer de N plus 1, c'est plus compliqué, quoi. C'est ça le problème, c'est que t'es pas forcément en position de force. Merci Totoshki pour le soutien. Merci Riyaku. Merci encore Nonance. Merci à tous les trois. À partir de quand on est jeune? À partir de ta naissance, on peut dire. Tu me demandes, Nelsama, à partir de quand on est jeune? Bon, je dirais à partir de 0 ans. Un jour, t'es jeune à partir de ce moment-là. Non, parce que c'était ta question. Je suis assez fort pour les réponses. Comment on paye les vacances à Ibiza sans ça? Salman Assar, je sais pas moi. Bah, t'as qu'à aller. Tu vas moins loin. Tu seras mieux pour la planète en plus. T'as qu'à aller à Créteil. Un petit Formule 1 au bord du lac de Créteil, là. Un peu de soleil et let's go, quoi. Il y a trop de messages, j'en ai 6 ans de retard. En vrai, Ibiza, c'est pas loin. Ah bah, Créteil, c'est moins loin. Hein. Ça, c'est chaud, c'est Moulbit qui dit, qui est un modérateur ici, J'ai connu l'inverse. Après 11 ans d'expérience et 5 ans dans la même boîte, voir arriver un petit jeune que je forme et qui est payé la même chose que moi, il faut avoir le mental pour le former. Mais c'est moi, Moulbit, ou du coup, c'est ton salaire qui n'allait pas? Il reste 15 minutes? Bah ouais. Bah, ils vont, bah, normalement, à 11h30, il y a la maquilleuse qui devait venir. Je sais pas ce qui se passe. Je vais passer un coup de fil. Ah là, on va être en retard, ouais. Je l'avais pas vu. Merci. Maxime. Ouais, je devais être au maquillage, là. Mais j'ai pas vu le temps passer avec vous, ça passe trop vite. Merde. Ouais, c'est bon, je mute le micro, hein. Bah en fait je voulais me faire maquiller en direct, ça aurait été drôle. Mais en fait les invités, les chroniqueurs sont, viennent d'arriver là, et donc ça marche pas, elle peut pas descendre. Et donc du coup, oh là, je suis vraiment crevé. Non mais ça arrive, ça arrive. De fourcher. Oui bah je suis crevé, je suis malade depuis hier, je suis enrhumé. Et donc du coup, bah, en fait, Maxime va venir me chercher. Et non seulement on ne va pas se faire maquiller en direct, ça aurait été super drôle, mais en plus on va devoir cut le stream alors qu'en fait le truc, alors que c'est sur la même chaîne. Parce qu'il y a un petit problème de régie tout à l'heure. Et du coup, ce qu'on voulait faire, c'était en fait bah, vous mettre un petit écran de pause et bamos quoi. Tandis que là, putain, vous êtes 4334. Et en fait, j'ai la crève aussi depuis 2 jours, on est tous en Eman ou quoi. Bah, en fait, mon épouse me dit qu'il y a plein de virus là, en ce moment au boulot. Et donc du coup, ben, de quoi, je vais devoir cut le stream, quoi. Ouais. Pour les rediff, c'est mieux de cut le stream. Bah ouais, mais je vous aurais gardé, moi. Merci la première des fourmis. Merci Tozoshki. Merci Ryaku. Bah, tu vois, y a... Levez la main les malades. Ouais, on l'a lu, Goyav, l'article sur les crèches. Donc bah, je vous donne rendez-vous à juste après, vous hein. De toute façon, là, Maxime vient me chercher, je m'en vais pas tout de suite. Mais voilà, à midi, ou même à, on va lancer, de toute façon, on va lancer l'écran d'attente bien avant. Midi, MVP, baby. Voilà, notre belle émission dont je suis super fier. Et les gens malades ? Bah ouais, il y a plein de gens malades. Bah il paraît que ça... Il paraît que c'est dans l'air, là. Donc je vous fais confiance. Vous êtes 4320. Si sur l'écran d'attente de MVP, je vois 4319 viewers, ou 4318, ou 4317, je vais vous chercher. Je viens vous chercher IRL. On note les pseudos. Je trouve l'adresse postale. Et je viens vous chercher IRL. Voilà, je vais faire l'appel de tout le monde. Ok ? Donc bah, du coup, là, vous savez que moi je raid systématiquement après chaque stream depuis 4 ans. Parce que c'est important pour moi de mettre en lumière le travail des autres streamers et streameuses. Bah, là je le fais pas parce que en fait, j'aimerais que vous restiez avec moi parce que c'est une émission de fou quoi. Donc c'est... Donc, ce serait amusant de faire un raid, ouais, de dire, bah, barrez-vous. Bah, non. Ah, je crois qu'on vient me chercher. Raid-toi toi-même, je crois que je peux pas. On est parti ? Eh bien. Bon, moi, je cut brutalement. Hein. Je l'aurais dit, hein. 4218 viewers. S'il y a moins de 4218 viewers sur l'écran d'attente... Dans un instant, je vais aller chercher un par un.
Ouais, il faut. Hein.
Et là, ça va être. Je démarre au quart de tour. Hein. Attention, hein, je vais vous chercher. Bon, on se retourne dans un instant, les amis. Je vais couper tellement brutalement. Je vais juste passer peut-être par genre Ouais. Hein, je mets quoi?
Un ending screen, c'est vraiment de la
Je sais
merde.
même pas si j'ai un truc de fin, parce qu'on n'avait pas prévu. Si, il y a un truc de fin. Il y a un truc de pause. Non, je mets pas un truc. Je mets un truc de pause. Tadam! Ok. Les amis, je vous retrouve. Je vous propose de faire un raid dans un instant sur une excellente chaîne d'un jeune streamer sémillant et chevelu qui s'appelle Samuel Etienne et qui est incroyable. À tout de suite. À lui donner la force. Il démarre dans le game et vraiment, c'est bien ce qu'il fait. Puis il est un peu beau gosse. À tout de suite. Je sais même pas où il faut que je clique. Ici. Je suis crevé. À tout de suite, les beaux gosses. Ciao.